Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Impact Zone, le podcast du surf français. Émission spéciale ce soir parce qu'on fête les 50 et quelques épisodes. Je l'ai dit dans le podcast d'avant, on n'est pas vraiment d'accord sur le comptage, on pourra y revenir. Mais toujours est-il qu'on voulait marquer le coup et donc faire une émission dans laquelle on revenait sur ces quasi 6 ans d'existence d'Impact Zone. Avec évidemment Rémi à mes côtés.
You.
Et aussi, non pas un invité, mais le troisième membre de l'équipe d'Impact Zone qu'on entend définitivement passer, Fredo à la technique.
Incroyable.
Cette voix de velours. La voix. Donc comment ça va les gars?
Bah ça va bien. C'est bon. Ça, 6 ans. Hein.
Bah ouais, 2018. Ouais. Février 2018, premier épisode sorti en mars, un truc comme ça.
Ouais.
On y est.
Le projet commençait en janvier ou février, un truc comme ça.
Ouais, dans ces eaux-là. Et donc on avait dit, ouais, on voulait quand même marquer le coup. On rigolait sur cette histoire de comptage, mais c'est vrai qu'on sait pas trop où on en est. Est-ce qu'il faut compter double les émissions d'Andy qu'on a fait en anglais et en français, les émissions un peu éphémères comme pré-compétition qu'on avait fait pour la compète à Karamas,
oui,
tu vois,
ce
genre de choses. Donc en réalité, je crois qu'on est à 53 ou 54 épisodes sur notre flux Spotify. Mais bon, il est pas trop tard pour célébrer quand même. C'est un gros cap, quoi, les 50 épisodes, mine de rien.
Ouais, on aurait pu en faire plus.
En fait, on aurait pu en faire plus quand même. On aurait peut-être dû. Mais bon, écoute, voilà, c'est l'occasion de revenir sur tout ça. On a une petite liste de thématiques et surtout, on a Fredo qui, comme on disait tout à l'heure, est silencieux, mais qui, en fait, est celui grâce à qui Impact Zone tourne aujourd'hui. On peut peut-être d'ailleurs raconter un peu d'où est parti le concept et comment Fredo est arrivé très, très vite dans l'émission.
Ouais, bah alors moi je me souviens déjà de c'était toi Romain, t'étais venu me voir un jour. Ouais, j'ai une idée et tout, faut qu'on s'en parle. J'avais dit bah vas-y, on s'en parle. Il me fait non, faut qu'on se voit pour en parler. Et t'étais venu chez moi, je crois. J'habitais encore à Bayonne à ce moment-là. Moi j'étais assez disponible niveau boulot aussi à ce moment-là. J'avais pas trop de boulot. Et là, tu me proposes l'idée du podcast. Moi, j'avais jamais écouté de podcast de ma vie. Je savais même pas ce qu'était un podcast réellement. Et je fais, bon, bah allez, ouais, s'il faut parler de surf, on y va. Et on commence comme ça. Sauf que on commence à deux avec toi, Romain, qui bidouillait l'ordinateur pendant qu'on parlait. Et je me rappelle, on a essayé de faire un premier épisode. Déjà, ça s'appelait pas encore Impact Zone.
Non.
À ce moment-là, on n'y avait pas de nom. Mais on essaye de faire un premier épisode et on parle et c'est la galère et on reste 4 ou 5 heures dans ton bureau en haut.
Ouais.
Et on reste 4 ou 5 heures dans le bureau et en fait, à l'issue des 4 ou 5 heures, bah, y avait rien. C'était tout nul.
Ouais, en fait, c'est à peu près ça. Ouais, c'était complètement ça. La jeunesse, c'est que, ouais, moi, c'est un truc que j'avais eu à l'idée de Surf Session avant, mais c'était un peu trop tôt, je pense, vers 2015 ou 2014-2015, et que j'avais proposé à la direction. Et l'idée, c'était d'offrir une émission qui soit complémentaire au magazine dans lequel on pouvait recevoir les photographes et les surfeurs qui revenaient de trip, ce genre de choses, pour pouvoir aller un peu plus loin que le magazine dans les récits, organiser des débats, ce genre de choses. Et pour le coup, toi, ça te parlait pas en 2018, et donc 3 ans avant, c'était sans doute beaucoup trop tôt, et même moi, j'en écoutais pas tant que ça. Donc le truc est resté dans les cartons, mais j'avais quand même bien envie de le faire, et il y avait qu'une personne avec qui je voulais le faire, c'était toi, parce que on est potes, et à chaque fois qu'on se voyait, et c'est encore le cas aujourd'hui, même sans micro, on parlait quand même beaucoup, beaucoup de surf. Et c'est vrai que je bidouillais un petit peu de musique de mon côté, et je me suis senti complètement capable de gérer la technique et l'éditorial, enfin, en tout cas, le micro, et force est de constater que c'était pas le cas.
Tu t'étais surestimé.
Ouais, j'étais clairement surestimé techniquement. Et donc après ce pilote qui est allé dans le mur, ben on a appelé le Fredo, pareil.
Non, même pas. C'était au détour d'une conversation, je crois. C'était.
Ouais. On
était.
On en avait parlé dans une soirée.
Ah ouais, ok. Je crois que
vous m'aviez parlé de votre projet. Vous m'avez dit ouais, ce serait peut-être bien. Toi, tu fais un peu de son, machin. Tu pourrais peut-être venir le week-end prochain et on va essayer de voir si on peut faire un truc. Et on avait pas de matos, on avait rien du tout. Enfin, c'était des micros qui venaient de droite, de gauche et tout. Et
micro qui avait une vingtaine d'années, je
pense. Ouais. Et on a réussi à brancher ça tant bien que mal dans un ordi.
Un zoom sur une carte son pour les connaisseurs et hop, bidouiller tout ce qui repassait sur l'ordinateur. C'était un peu de bricolage.
Et puis ça a marché, quoi.
Ça a marché.
On a fait le taf.
Ouais, on a fait le taf. Ça a été quand même un sacré soulagement de pouvoir complètement laisser cette partie technique et se concentrer sur ce qu'on disait, ce qui était déjà en soi aussi pas évident.
Ouais, surtout que les premiers épisodes, au final, il y avait que nous deux qui parlions. Et du coup, fallait avoir beaucoup de choses à dire quand même.
Ouais, c'était cool en réalité comme format, hein. Mais ouais, on se faisait notre petit sommaire, partie culture, partie débat, toi et moi sur des sujets sur lesquels on avait chacun des points de vue un peu différents.
Ou quand c'était pas différent, fallait trouver une différence histoire d'avoir un peu de
oui,
un peu de piment.
Enfin bref, ouais, toujours est-il qu'il y avait de la recherche à faire avant chaque émission, que ça pouvait nous mettre un peu dans le jus. Mais moi, avec le recul, j'aimais bien ce truc-là. C'était quand même cool.
C'était plus de prépa quand même.
Carrément plus de préparation. Ouais, ouais. Ça plus le fait, comme on disait tout à l'heure, qu'on était évidemment beaucoup moins à l'aise et au micro et techniquement ça roulait, ouais, mais ouais, il y avait quand même des blancs, des longueurs, ouais, des répétitions.
Vu la quantité de paroles que vous mettiez dans une émission, il y avait des gimmicks qui revenaient tout le temps. Je me souviens, on avait listé.
Ouais, un jour, tu tiens le listing.
Vous avez écrit en gros sur un papier tous les mots que vous répétiez tout le temps.
T'avais comptabilisé 2-3 mots voilà, de langage à l'un à l'autre.
Foutu sous les yeux à l'émission 2 ou 3 pour que vous les ayez en tête.
Ça avait fait mal.
Et que vous les répétiez du coup pas trop. Et puis maintenant, c'est bon, ça roule.
Ouais, il y avait ça, et puis il y avait également, être spontané et même être à l'aise avec un micro, parce que moi, je m'étais jamais réellement entendu. Il y avait le truc du micro avec le casque, vu qu'on était un peu équipés comme des campeurs niveau matos, il y avait de la latence dans le casque et tout, c'était infernal,
ouais. Ouais, et puis il y avait aussi le fait que, ben, mine de rien, pour des émissions qui étaient plus courtes que maintenant, mais qui duraient, je crois qu'à l'époque, elles faisaient genre 1 heure, je pense qu'on enregistrait, où on passait 3 ou 4 heures, on passait des soirées entières. Il y a des fois, on commençait vers 20h, 21h, on finissait 1h du matin, et parce que on se reprenait à 4 fois pour la moindre phrase ou le moindre truc, ce qui est, maintenant, c'est beaucoup plus spontané, et encore plus avec les invités, on peut dire qu'on garde quasiment tout. Mais ouais, c'était fastidieux les premières.
Ouais, les 2-3 premières, c'était rude. Hein.
Et donc, tu parlais du nom. Effectivement, au début, il a fallu qu'on trouve un nom. On s'est mis d'accord sur un nom à un moment donné. Je sais pas si tu te rappelles.
C'était Beach Talk, non?
Ouais, Beach Talk. Et tiens, d'ailleurs, j'avais essayé de bidouiller, mais en 5 minutes sur GarageBand, un petit jingle qu'on peut se réécouter. Et on va vite fait expliquer pourquoi derrière, on l'a pas gardé. Et donc ouais, techniquement c'était quand même pas abouti, ça faisait vraiment du fun radio années 80, mais surtout en fait avec moi avec ma prononciation qui était pas ouf, le beach et le beach était quand même assez ambigu, on s'était dit qu'on allait, ça faisait très un peu beaché sur de la surf culture ou quoi, et que ça pouvait être mal interprété, donc on a vite
moi j'aimais bien,
ouais,
j'aimais bien,
moi,
le côté aussi. Beaching,
mais bon, on est retombé sur Impact Zone. Et il y a pas longtemps, on m'a dit que ça faisait penser à Riding Zone. Et en fait, je t'avoue que jusqu'à donc il y a quelques semaines, et que j'avais jamais fait le rapprochement.
Moi, on me l'avait dit dès le début. Ça m'avait fait chier, je me rappelle.
Bah ouais.
J'étais vert. Parce qu'on se positionne pas exactement pareil, et donc j'étais un peu vert. Et mais bon, c'était lancé, qu'on en avait déjà fait 4 ou 5 quand on nous avait dit ça. J'avais pas changé de nom maintenant.
Ah ouais, moi tellement à fond dans le truc que j'ai mis du temps avant de capter le délire. Mais bon.
Et moi en fait aussi quand on a sorti le truc à Impact Zone, en fait je me suis rendu compte que Impact Zone le nom ça faisait pas que référence à la zone d'impact en surf et qu'il y avait plein de trucs qui s'appelaient Impact Zone et qui avaient rien à voir avec le surfing. Notamment des salles de gym. Il y a Gogo de salle de gym qui s'appelle Impact Zone.
Ouais, bah, il y avait même un podcast de baston qui s'appelait Impact Zone.
Ah, de bagarre, carrément.
Ouais,
là,
ouais,
de
ouais,
MMA.
Ouais. Mais, enfin, en anglais. Et d'ailleurs, pendant les premiers numéros, quand tu tapais Impact Zone, on était en 2e résultat. Et c'est bon, maintenant, on est en tête, mais, et je crois qu'ils ont arrêté d'ailleurs. Mais, ouais, c'était déjà pris. D'où le Impact Zone sur podcast aussi, quand même.
Et vous parliez de la naissance du nom, mais il y a la naissance du logo aussi qui est rattaché au nom. Parce qu'une fois que le nom Impact Zone a été créé, il a bien fallu qu'il y ait un logo derrière.
Ouais.
Ouais, bah d'ailleurs, ceux qui nous écoutent sur Apple connaissent ce bon vieux logo.
C'est clair.
C'est celui qui est resté sur Apple. On n'a pas réussi à le changer, bizarrement.
Mm-hmm.
Ça serait bien qu'on le change quand même un moment.
Ouais, ouais.
Ouais. Ouais, parce qu'on a quand même tâtonné un petit moment avant de trouver enfin une personne qui...
Ouais,
donc,
ouais,
non. Quelque chose de bien, quoi.
Donc, pour la story, le premier logo, c'est toi, Fredo, qui l'avait. Qui
ouais,
l'avait
j'ai honte, mais oui, je l'avoue.
Tu voulais pas le dire? Tu voulais pas qu'on en parle de ça?
Non, mais c'est Romain qui m'avait guidé sur ses délires années 80, tout ça.
C'est vrai qu'on a fait un petit moodboard.
Alors
et
que
tout,
moi, je les ai vécues, les années 80, et j'ai vraiment pas envie de remettre les mains dedans, quoi. Pour ça, j'y suis allé à reculons.
Et ouais, et heureusement, il y a Lucie Sou, pour ceux qui connaissent le rock'n'roll, qui nous a fait notre nouveau logo,
Ouais, et du coup, on était hyper contents parce que déjà, c'est une super copine. Et le petit clin d'œil, c'est que c'était la graphiste de Tripsurf Magazine aussi dans les années 2000. Donc, bah, c'était cool aussi voilà, d'avoir ce petit détail-là en plus. Elle a fait un logo qui est absolument chambé et qui correspond à fond à l'identité d'Impact Zone, qui va bientôt d'ailleurs être décliné en merch. Enfin, 6 ans après, on sort du merch, t-shirt et tout, donc on vous en dira plus très très vite. Mais ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce tout premier logo.
Oui, il n'y avait pas eu beaucoup d'aller-retour. Hein. Le tout premier, on l'avait validé rapidement, non?
Ouais, ouais. Peut-être qu'on était pressé.
Il nous fallait un truc à mettre sur la vignette, quoi.
Je pense.
Il y avait aussi quelque chose qui caractérisait vachement les premières émissions, et peut-être les auditeurs de la première heure s'en rappellent, c'est qu'on avait l'habitude de mettre des petites, ce qu'on appelle des virgules, pour illustrer nos propos ou quoi, donc des extraits ou de films ou de chansons ou quoi, qui nous faisaient marrer. Mais en fait, autant c'était marrant à écouter, autant c'était un cauchemar à trouver. Et combien de fois en fait on a retardé des sorties parce qu'on passait un temps pas possible à retrouver le petit extrait de 2-3 secondes qui parfois ne parlait qu'à celui qu'il cherchait, et les autres disaient bah mec, on connaît pas quoi.
Ouais. Et d'ailleurs moi j'ai flingué mon ordi de virus parce que j'allais sur un vieux truc pour choper les sons, extraire les sons depuis YouTube ou depuis une vidéo, et le truc c'était une usine à spam, ce site internet, et du coup je me suis retrouvé avec pas mal de lenteur dans mon ordi suite à cette manœuvre. Et ouais, au final, après, c'est pas plus mal qu'on ait arrêté. Je pense que ça nous faisait marrer, mais je pense que ça rendait le truc un peu burlesque et pas forcément...
Ouais, ça alourdissait un peu le format.
Ouais. Ouais. Je pense que ça amenait pas la qualité. Et moi, c'est Laurent Gaden qui me l'avait dit, ça. Que c'était pas...
Que ça le faisait pas rire.
Ouais, que c'était un peu cheap par rapport à la qualité qu'on essayait de faire.
Ouais, en tout cas, c'était le jour où on a décidé d'arrêter, c'est vrai que c'était quand même un gain de temps. Parce que ouais, vraiment,
pas mal.
On y passait du temps, quoi. C'est ridicule pour une heure quand t'avais un truc en tête à retrouver sur Internet. Il y a eu ça, et donc je pense que c'est aussi arrivé avec le changement de format. On a décidé de faire ça avec des invités. Je suis pas sûr qu'on ait gardé les virgules avec les premiers invités.
Si, parce que sur suite Damien Castera, il y a des virgules encore.
Ah ouais, donc on en a fait quelques-uns.
On en a fait quelques-uns. Je pense qu'on l'a gardé bien jusqu'à l'épisode 10, entre 10 et 15, on les avait.
Ok. Le premier invité du coup qu'on avait reçu, c'était Jorgan Cousinet,
ouais,
en marche du QS d'Anglet, je me souviens.
Ouais, exactement.
Donc fin août.
Bah, c'était premier... là où il était en pleine bourre en plus, il était potentiellement qualifiable et tout ça. C'était
exact, ouais.
Il était en pleine bourre, mais du coup, enfin mon avis là-dessus, c'est qu'il était trop dans son truc de pleine bourre justement, et après a posteriori avec d'autres invités. Tu te dis que quand les mecs ils ont pris un peu plus de recul sur leur carrière ou sur leur performance, ils sont plus critiques avec eux-mêmes ou avec les choix qu'ils ont fait. Là, celle de Jorgan, il était vraiment à fond dans son truc de qualification, d'entraînement, et du coup, c'était dur d'avoir autre chose que de la compète.
Ouais, et peut-être que nous aussi, à notre niveau, c'était un exercice qui était nouveau, donc on avait peut-être du mal aussi à sortir de... Tu vois, le faire sortir de ce qu'il racontait, on était resté aussi, on avait quand même parlé des planches, on avait quand même parlé, mais c'était vraiment très propre à sa carrière, en fait.
Ouais.
Parce qu'on était comme lui, on pensait aussi que ça allait arriver et que c'était presque une interview exclue de quelque chose qui malheureusement ne s'est pas produit derrière. On a enchaîné assez vite avec William Aliotti. Ça, c'était cool aussi, ce truc avec William, parce qu'on avait déjà la volonté de chercher des profils différents les uns des autres. Et donc là, bah, c'était juste l'extrême opposé de Jorgan.
Ouais, puis ce qui était cool, c'est que William, déjà, c'est un free surfer exceptionnel. Et puis c'est un mec qui travaille vraiment son image et sa carrière et le rythme de ses sorties de contenu et tout ça. Il avait été hyper transparent. Et hyper transparent sur sa façon de gérer, de dire bah je t'aurai un edit juste avant moi de re-signer mon contrat ou des choses comme ça pour faire monter la sauce et pour embellir sa carrière. Et c'était bien d'avoir un mec qui a cet œil très précis sur le côté marketing du surf.
Toi Fredo, comment tu as pas vécu, mais qu'est-ce que tu auras à dire sur la transition justement de format entre la V1 et la V2 avec les invités?
Bah, ça a tout de suite pris une autre dimension, en fait, dès qu'il y a eu les invités, parce qu'il y a, les interactions qui jusque-là étaient entre vous deux et qui commençaient à peut-être un petit peu trop rouler, le rôle de chacun, ont commencé à être en triangle cette fois-ci. Et en fonction de l'invité, à chaque fois, ça changeait. À chaque fois, ça amenait quelque chose de nouveau. Et puis, vous faisiez peut-être un peu plus vos devoirs quand il y avait un invité, je sais pas, là, avec plus la pression.
Alors, je pense pas qu'on faisait plus nos devoirs, ouais, mais les devoirs, ils étaient plus faciles à faire. C'est-à-dire, quand on devait faire préparer une émission et on savait qu'on avait une heure à meubler, là, j'avais l'impression de bosser plus quand on était que nous deux. Et l'invité, c'est tu prenais les grands thèmes de sa carrière et plus après la discussion, je trouvais que c'était plus facile justement en prépa. Après, je suis d'accord avec toi, les rôles du coup sont devenus les rôles de que ce soit de Romain ou de moi sont devenus plus intéressants suivant l'invité.
Ouais, il y avait des invités qui correspondaient plus à l'un, des invités qui correspondaient plus à l'autre, et en fait ça se croisait, tu vois, il y a eu des surprises. Des fois, il y avait un invité, Rémi, je vais pas dire t'y allais à reculons, mais tu savais pas trop comment t'allais aborder cet invité-là. Et au final, t'avais une super surprise à la fin. Et puis,
moi, clairement, Romain, il voulait vraiment qu'on fasse Gibus. Et de toute manière, fallait qu'on fasse Gibus. Moi, je le connais moins que Romain parce que Romain a bossé avec lui à Surf Session. Mais moi, je pensais que, il avait écrit des bouquins sur la théorie du mouvement, sur le mouvement. J'étais là, ouais, ça va être trop philosophique, trop de niveau par rapport à moi, ce que je suis, ou je suis juste un fan de surf. J'étais là, ouais, putain, on va se faire dépasser par l'information. Je vais pas suivre, quoi. Et au final, non, c'était super cool. Et son histoire, elle est incroyable d'ailleurs. C'est un des, je pense que c'est un des podcasts qui a les meilleures audiences.
Ouais, il a cartonné. On a passé une super soirée.
Ouais, c'était top.
Il dure 3 heures, mais ceux qui n'ont pas encore écouté, on s'est vraiment y aller. Et je pense que même lui aussi, il a su se mettre un peu à un niveau. Je vois ce que tu veux dire par rapport.
Ouais, moi j'avais peur. Enfin, je l'avais vu en conférence et tout ça. J'étais là, waouh, putain, je vais pas comprendre la moitié de ce qu'il me raconte, quoi.
Mm-hmm. Bon, après, il y a un truc qui est récurrent. Il y a toujours une mise en confiance de votre part. Alors, je sais pas, ça vient de vos personnalités, de la façon dont elles interagissent ensemble, peut-être de la bière dans certains cas, ou de l'heure avancée dans d'autres cas. Mais en tout cas, enfin, j'ai pas souvenir d'un invité qui était mal à l'aise au bout d'une demi-heure. Ça y est, c'était plié. Il se sentait là comme chez lui, et puis ça s'entend à chaque fois sur les épisodes, quoi.
En fait, je pense qu'il y a au moins un ou deux qui connaît chaque invité qui est venu, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe, et ça aide à avoir les gens aussi, on va pas se mentir, ils viennent aussi parce qu'ils nous connaissent un peu personnellement. Mais moi, il y a des invités que j'ai vus pour la toute première fois au studio ici. Je pense à toi, Axel Lorenz. Je l'avais jamais rencontré avant, et enfin aussi, alors si pendant le chez Quick avec Matt Krepel, mais on se connaissait pas, quoi. Et sentait que lui, il faisait partie des gens qui, en arrivant, n'étaient pas forcément super à l'aise. Mais moi, je me mets à sa place. C'est pas évident de se prêter à l'exercice. Et par contre, oui, au bout de quelques minutes, ça déroulait vraiment. Et là aussi, son émission, elle est hyper intéressante. Mais voilà, je pense que souvent, quand l'un des deux connaissait pas l'invité, ouais, l'autre, il faisait quand même déjà le petit, on se balance des infos avant d'enregistrer. On se prépare quand même quelques questions. On se raconte les choses, et histoire de pas être à nu face à lui. Mais moi, je pensais plutôt stressant pour les invités que pour nous, au final. Toi, nous, on est deux.
Ça dépend. Il y avait des profils. Je me rappelle, avant d'interviewer Mickey, tu étais un peu stress. Déjà, tu bossais avec lui. C'était le chef du marketing surf chez Quicksilver. Ah, ouais, bossais chez Quicksilver.
Ouais, peut-être.
T'étais bien tendu avant.
Ah, ouais?
Ouais, t'étais pas relax du tout.
Ok.
Ouais.
Ok.
Confirme.
non, il y a des profils, forcément, les gros profils superstars. Même Jérémy, je me rappelle,
on s'est mis la pression.
On s'est
aussi
préparé de dingue, parce que Jérémy, s'il a pas envie, ça va, tu sais que ton interview, elle va durer 20 minutes et que ça va être plié. Nous, c'est pas le format. On a envie qu'il se dévoile, et pour le coup, ça s'est super bien passé, mais c'était on savait pas trop sur quel pied danser quand même.
Et je pense que justement, on peut raconter un peu comment on prépare les émissions, en tout cas comment on décide des invités et comment ça s'organise, parce que je pense qu'on a la volonté de faire le plus de monde possible. Après, on va à notre rythme, ça on pourra en parler tout à l'heure aussi, mais c'est vrai qu'il y a des invités qu'on arrive à caler un peu à l'avance, et parce qu'on sait qu'ils vont être là et qu'ils vont nous accorder du temps. Mais la plupart du temps, 2 semaines avant, quand c'est des gens encore en activité, ils peuvent être repartis sur un swell et sur une compète. Et puis, le jour de l'enregistrement, il peut aussi y avoir des vagues. Et en l'occurrence, quand l'invité nous plante, et c'est déjà arrivé une fois ou deux, c'est déjà arrivé qu'on puisse pas retomber sur nos pattes. Mais maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un petit backup. Si jamais l'invité ne peut pas, on a déjà une personne à qui on a dit qu'on aimerait bien faire la mission. Mais souvent, c'est vrai que c'est dans notre réseau et c'est des choses qui s'organisent assez un peu à la dernière minute quand même.
Déjà, il y a calé nos trois agendas à nous trois autour de cette table, que ce soit Fredo, toi, Romain et moi. Ça, il y avait un premier truc. Fredo et moi, on était indépendants. Toi, t'étais pendant les quatre premières années, t'avais ton job 9 to 5. Donc forcément, 9 to 5, t'étais pas dispo. Donc
ça, des émissions à 21h.
Ouais, donc ça, c'était déjà plus sport. Et après, faut aussi trouver les gars qui avaient envie de venir à 21h pour parler à deux gugus autour d'un micro, quoi. Donc ça, c'était la première difficulté. Maintenant qu'on est tous indépendants, c'est quand même plus facile.
Ouais.
De choper les gars.
Mm-mm.
Et je pense aussi, le podcast a pris aussi un peu en notoriété. Donc c'est aussi un peu.
Oui, ça.
J'aimerais penser que c'est plus facile pour ça. Je sais pas si c'est la vraie raison, mais ouais, c'est quand même un peu plus facile de booker les trucs. Je pense qu'il y a...
Non, mais t'as raison. Et je pense que oui, c'est après 6 ans, on est un peu plus installé aussi. Mais je pense surtout, et ça c'est important, et si c'était pas le cas, les gens l'entendraient tout de suite. Personne n'est jamais venu à reculons. Et si ça devait être le cas, nous on s'en rendrait compte. Les gens s'en rendraient compte aussi, donc les gens viennent, ils ont rien à gagner à venir en fait, ils sont pas payés, on leur offre rien d'autre que de temps en temps une petite bière gratuite et
des pizzas de temps en temps.
Des pizzas, c'est vrai, ouais. Mais ça c'était quand on faisait en soirée, en journée c'est plus rare.
Ouais.
Comme pour les bières.
C'est vrai. C'est vrai qu'on boit beaucoup moins de bière.
Bah oui.
Ah mais c'est un bon sujet ça aussi quand on parlait des débuts. Les bières c'était compliqué parce qu'au début on faisait ça en soirée, on faisait ça entre potes, on était content de se voir, on se mettait une, deux, trois des fois quatre bières et là le podcast il avançait plus, la voix a changé et tout, c'était l'enfer.
La pâteuse arrivait dans vos bouches.
Ouais, la pâteuse arrivait, le bégaiement. Et d'ailleurs, c'est le premier qu'on a fait en journée. Je me rappelle plus qui c'était.
C'était Charlie Quiron, ici.
C'était Charlie?
Je crois. Et on a eu une révélation en disant, la vache, c'était un samedi matin ici. On s'est dit, la vache, c'est quand même vachement bien.
Non, c'était les Del Perro en journée.
Non, je crois qu'on a fait Charlie avant, non?
Non, c'était les frères Del Perro, je crois.
Ah, t'as raison. Eux, c'était avant le voyage. Ouais, ouais.
C'était en... Et là, on s'est dit, ouais, c'est quand même plus facile.
On a les idées plus claires qu'après une journée de travail et 3-4 bières.
Exactement. Et ouais, ça, la bière, c'était un sujet. C'était un sujet.
Ben voilà, ça fait partie des pistes d'amélioration.
Ouais.
Des trucs, ouais.
À consommer avec modération.
Évidemment.
Ouais.
Tu peux la refaire, Fredo?
À consommer avec modération.
Ouais, cette voix de velours. Je suis tellement content que les gens puissent l'entendre.
Mais les gens l'ont déjà entendu.
C'est vrai.
Ouais, ouais. C'est vrai.
Ouais, on a fait quelques émissions spéciales. Et avec des interviews de surfeurs et de journalistes anglo-saxons. Et c'était déjà Fredo qui prêtait sa voix. Donc, si vous avez écouté, c'était quoi? La première, Andy Irons.
Andy Irons, où il a beaucoup parlé, parce que je pense que trois quarts des invités, c'était des anglo-saxons.
Qui pouvait être un peu désarçonnant pour les auditeurs. Tu faisais toutes les voix, la même voix pour les trades.
T'avais voice-over aussi. On avait tous voice-over des...
Ça va être encore plus simple, alors.
Mais en fait, toi, Romain, t'avais tout voice-over, parce que moi, j'étais incapable de faire la trade simultanée. Enfin, l'émission était super longue, c'était un taf monumental. Donc, ce que tu faisais, toi, tu faisais la trade simultanée, et moi, je réécoutais ta voix en français. Et je répétais ce que tu avais dit en mettant un peu mes intonations dessus, etc.
Ouais, je faisais une piste témoin un peu à la va-vite. Ouais, ouais.
D'ailleurs, ma mère m'avait dit « Oh, elle est super la voix de Fredo
!» Ah ben ouais, bien sûr. Donc ouais, et t'as fait ça, et on t'a entendu aussi dans l'émission spéciale sur G-Land, où je sais qu'entre autres, tu fais la voix de Bosco qui raconte le tsunami. Hop. Et ouais. Plus récemment, l'émission de Bellara, où tu... Je fais les voix de Shane Dorian et de Evan Slater. Ouais,
j'ai adoré faire Jamie la voix de Shane Dorian.
Ouais, ça s'entend. ça aussi, on peut en parler finalement de ces émissions spéciales qui sont, parce qu'il y en aura, d'autres aussi, des gros projets.
Je pense que c'était des gros projets parce que c'était pas assez planifié. C'est-à-dire qu'un mois avant le moment où on voulait sortir, souvent Romain arrive avec « J'ai une idée, les gars !» On va faire une émission spéciale.
Faut qu'elle sorte le 2 novembre.
Faut qu'elle sorte le 2 novembre. Alors, spécial Andy Irons, le 2 novembre pour les 10 ans de sa mort. Ah ouais, mais on est le 15 octobre. Ça va être chaud. Et ouais, ça, c'était un peu sport. C'est, je pense, les émissions spéciales, ouais, on n'était pas, et toutes, hein. Ça, c'est toutes, les trois.
Parce que la plus douloureuse, ça reste Bellara.
Les trois, elles sont passées comme ça. Elles sont passées quand même un peu dans l'urgence.
Ouais. Et Jillian, plus simple.
Plus simple parce que moins d'invités.
Bon, oui, oui. Complètement moins d'invités. Et puis, moins d'invités anglo-saxons aussi. Je crois qu'il y avait que Bosco. Sinon, il y avait Marie Chou, il y avait Narbé, il y avait Franck Lacaze. C'est quand même beaucoup moins de taf parce qu'il faut s'imaginer que, genre, pour Andy Irons, bon, les émissions, elles font 2h20. Je dis les parce qu'il y a la version anglaise et la version française. Mais à chaque fois, on avait la chance d'avoir des gens qui, parfois, nous racontaient, nous parlaient d'Andy pendant 3 quarts d'heure. Il fallait dérusher, donc il fallait réécouter l'interview, isoler les passages intéressants, essayer de les remonter en parallèle d'autres passages intéressants d'autres personnes. Et ouais, on y a passé des soirées entières. On a même passé un week-end ici pour le finaliser avant sa sortie, je me souviens. Mais au final, tu vois, se dire qu'on a eu des gens comme Lucky Gann ou Jolie qui nous ont raconté des trucs, qu'ils ont dit être des histoires exclusives qu'ils n'avaient jamais racontées avant. Tout, c'était quand même... bah, ça rendait, ça avait quand même accepté toute la masse de taf qu'on s'est mis dessus. Et il a, même en anglais, il a marché ce, l'épisode de Andy. Donc
ouais,
il a été écouté par des anglo-saxons.
Ouais, il a plutôt bien marché. Mais tout c'était, au final, le résultat est sympa. Hein. Même Bellara, le résultat est sympa. Mais c'est vrai que les deux erreurs qu'on a fait sur Andy et Bellara, c'est qu'on a trop posé les mêmes questions à tout le monde. Et du coup, on s'est retrouvé avec une quantité de mêmes informations dites de façon différente. Et on savait déjà, on savait même plus qui prendre. Et forcément, quand t'interviews 15 personnes, tu te dois un peu de mettre les 15 personnes dans le podcast, de les faire parler au moins une fois chacun. Et du coup, c'est compliqué.
Ouais, super souvenir. Tu vois, même pour l'émission d'Andy, je me souviens de Mickey Avalon et de Chris Cotty qui avaient accepté qu'on utilise leurs morceaux. C'était pas rien, ça non plus, quand même, pour l'émission.
Ouais.
Et morceaux qui est de séquences phares de Andy, de Taylor Steele ou de morceaux de trilogie ou quoi, ça c'était quand même charmé. Donc ouais, sur là, on les a bien taffés quand même.
Après, en règle générale, tu parles de ces gens qui nous ont donné leur contenu. En règle générale, que ce soit les photographes, les vidéastes, les musiciens, on a été plutôt gâtés. On n'a pas eu trop d'embrouilles sur l'utilisation de contenu, si ce n'est une fois.
Deux fois,
avec la même personne. On s'est fait un peu rattraper par la patrouille, mais... Et puis maintenant, c'est normal parce qu'on commercialise un peu des trucs, donc forcément, on se fait un peu plus rattraper. Mais Joly, il a été super cool, il nous a donné plein de contenu et tout. Bosco aussi.
Joly nous a carrément créé un accès illimité à son site web pour pouvoir prendre tout ce qu'on voulait de Andy. C'était quand même assez fou.
Ouais.
C'est quand même un trésor qu'il a et je pense qu'il peut encore vendre à d'autres gens. Donc gros big up à Joly là-dessus. Ouais. Et oui, t'as raison. Et souvent, même les surfeurs qui nous donnent des archives. Par correction, demande ça au photographe et
oui,
on s'est jamais pris de refus.
Généralement,
on ne jamais demandé de payer
cool.
Ou quoi. Ouais. À part ce surfeur américain, bon, ce photographe américain. Mais...
Ouais. Bon, il est connu apparemment pour ça.
Et tu voulais dire quoi, pardon?
Je sais pas. Après, là, on a bien dérivé parce que tu parlais comment s'organise une émission. C'est de là où on est parti qu'on a dérivé. Mais ouais, on peut repartir là-dessus.
Bah, déjà, on peut se dire qu'on essaie de varier au maximum les invités. C'est intéressant. C'est ce qui fait, je pense, un peu la richesse aussi du podcast aujourd'hui. Et une fois qu'on se met d'accord entre nous, parce qu'il y a des fois, on n'est pas super d'accord sur des castings. Il n'y a jamais eu de no-go, je crois pas. Mais parfois, faut que l'un des deux convainque un peu plus l'autre du bien fondé, de l'intérêt de recevoir quelqu'un.
Après, moi, à force des interviews, là, j'ai changé d'optique. Je me dis que tout le monde a une histoire cool à raconter sur le surf et que c'est à nous de poser les bonnes questions. Et si on se renseigne suffisamment sur l'invité, en fait, on peut même, interviewer un surfeur lambda et en étant bien renseigné sur son histoire, je suis sûr qu'il peut avoir une histoire de surf cool.
Mais voilà, et donc une fois qu'on se met d'accord, ouais, on fait un peu notre travail, soit on a la chance de connaître un peu son histoire, soit c'est déjà arrivé qu'on passe des coups de fil ou quoi, ou qu'on se renseigne, qu'on ouvre des magazines ou quoi, et on se fait notre petit, on n'a pas des réponses, des questions rédigées, mais on a notre petit déroulé, nos grosses thématiques, nos rubriques récurrentes aussi, et puis ça déroule.
Alors ça, je te dirais, ça dépend des invités. On sait aussi des fois à qui on a affaire. Et c'est vrai qu'il y a des surfeurs, on sait qu'ils sont bien loquaces et qu'ils vont... Enfin, des surfeurs ou des invités, on sait qu'ils sont bien loquaces et qu'ils vont bien dérouler et on a juste à travailler des thèmes. Et il y en a d'autres, on sait que ça peut être un peu plus... Enfin, qui sont soit plus timides ou plus réservés et qu'il va falloir aller plus les chercher. Et là, on a besoin de rentrer plus dans le détail de chaque question. Mmh. J'ai l'impression que c'est ça à chaque fois.
Ouais, c'est possible. Et il y a aussi des fois où on pensait qu'on allait devoir justement aller chercher des réponses. C'est que des gens qui étaient pas forcément super loquaces et on a eu des super surprises. Et je pense que le meilleur exemple, c'est tu sais de qui je parle.
Joanne Duru, ouais.
Mais ouais.
Ouais, ouais. Bah ouais, carrément, tout le monde nous avait dit, ouais, vous ferez pas, même ses potes, hein. Vous ferez pas 20 minutes. Et lui, nous, en arrivant, il nous avait dit pareil. Bon, ça dure 20 minutes, l'histoire. Et en fait, 2 heures. Je pense qu'on a le record absolu d'interview avec Johan. Mais bon, quand on en parle à Maud, elle dit qu'il est, quand il est à l'aise, il est bavard.
Qu'à la maison, il parle beaucoup.
Ouais. Ouais. donc, au final, c'est juste que on était dans une bonne, dans un bon contexte. Je pense le fait d'être chez lui aussi. De l'avoir fait avec Maud Lecard avant, qui est sa compagne, forcément, ça a aidé à rendre le truc plus simple pour lui, quoi.
Ouais, puis je suis convaincu que bon, c'est comme tout le monde, on peut être dans son bon jour comme dans son mauvais jour. Les mecs, c'est pas des pros des plateaux ou quoi, et qui taffent dès qu'ils entendent le mot ça tourne, se mettent dans un rôle ou quoi. Ça reste des surfeurs avant tout, et on a la chance. Jérémy, pareil, en fait, on sait qu'on est tombé sur un bon jour parce qu'il était en forme et qu'il avait plein de choses à dire, qu'il avait envie de parler. On serait arrivé la veille ou le lendemain, peut-être ça aurait pu être différent. Dans l'ensemble, on a eu du bol quand même, parce que on est rarement sorti déçu d'émission. Je dis rarement parce que c'est déjà arrivé qu'on sorte un peu déçu, mais pas forcément déçu que des invités.
Et ouais, déçu de nous aussi.
De nous ou genre du rendu global. Et c'est là que c'est intéressant parce que Fredo, souvent, il a, dès qu'on démonte, on parle un petit peu en off avec l'invité et tout ça, ensuite on remonte tous les trois dans la voiture. Et souvent, quand on vient de trois voitures, on s'appelle pour se faire un débrief. On dit « Eh alors, Fredo, t'en as pensé quoi ?» Parce que nous, on est tellement dans le truc qu'on n'a pas vraiment de recul. Toi, t'en as un peu plus parce que t'as eu le temps d'écouter. Et la plupart du temps, heureusement, tu nous as rassurés sur des trucs en fait, qu'on pensait pourris. Il y a une fois ou deux où c'était l'inverse. On était contents et t'as fait « Non mais les gars, pendant une demi-heure, vous tourniez en rond. En fait, vous n'êtes pas rendu compte.
» C'est vrai que c'était un peu le deal au départ parce que quand on en avait discuté, vous m'aviez dit « Ouais, techniquement, il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut que ça roule. » Et on aurait besoin aussi d'un œil extérieur, d'un regard un peu candide parce que je suis un peu moins impliqué que vous dans le milieu du surf. Effectivement, oui, dans ces débriefs d'après émission, je vous disais un peu comme je le ressentais, je me mettais en direct à la place de l'auditeur, quoi. Mm-hmm. Et des fois, t'as raison, c'était ça, des fois, c'était pas ça.
Et d'ailleurs, c'est bien que tu le précises que ton rôle, il est pas que Fredo à la technique parce qu'il est aussi éditorial. Je pense que si Fredo, il avait pas été dans le game, on aurait peut-être eu plus de mal à, enfin, quoi que toi, non, Romain, t'es journaliste, mais, plus de mal à vulgariser, du moins pour moi, plus de mal à vulgariser le propos et de le rendre cool pour des surfeurs peut-être un peu moins hardcore. Et des fois, je suis super content parce que il y a des gens, ma sœur, elle me dit, ouais, j'ai des collègues, ils surfent un peu à la cano comme ça et ils écoutent Impact Zone quand ils vont de Bordeaux à la cano. Et c'est cool de savoir qu'on n'est pas écouté que par du surfeur pur et dur hardcore, que tous les gens qui aiment le surf peuvent écouter Impact Zone. Ça, c'est plutôt une bonne victoire, je trouve.
Je pense qu'on a fait un peu d'effort par rapport au début, là-dessus.
Qu'au début, les trois premiers épisodes.
Ouais, même un peu au-delà, en vrai. Mais de dire que, ouais, et encore maintenant, je pense qu'on prend pas le temps de vulgariser, comme tu disais, d'expliquer chaque propos, de parler de chaque spot. Même parfois, en fait, et c'est une erreur qu'on a tous les deux fait, mais tu vas dire, ah ouais, tu vas parler d'un invité en parlant de quelqu'un d'autre, en le citant juste par son prénom.
Ouais, d'ailleurs, je pense que je l'ai fait déjà 5 fois dans cette émission.
Considérant que tout le monde aux alentours, en fait, sait de qui il s'agit. Et, alors qu'en fait, voilà, il y a 500 personnes qui les captent. Mais donc, on a des efforts à faire, mais on a quand même fait bien plus qu'au début, ouais.
Et ça, c'est grâce à Fredo.
Ouais, et puis Fredo aussi, t'entends comme les fameuses fois où on tournait en rond, et nous, on pouvait réécouter, on se rendait pas compte, et tu disais, mais t'as pas capté ce truc-là, en fait, tu peux retirer le quart d'heure qui suit, puisqu'en fait, il l'a déjà dit un peu au début, puis un peu à la fin. Et il y a aussi des fois, on se rendait compte qu'il y a des invités qui étaient soit qui avaient vraiment envie de faire passer des messages et donc qui se répétaient, soit qui étaient bloqués sur des choses qui leur paraissaient hyper importantes et qui inconsciemment avaient tendance aussi à tout le temps revenir sur cette personne ou sur ce moment de leur carrière ou quoi. Et c'est là qu'en post-production, en montage, ça devenait un peu compliqué parce qu'il fallait, pour le coup, pour que ce soit audible et intéressant, il fallait couper. Et couper des petits bouts ici ou là sur des émissions de deux heures.
L'éditing n'a pas toujours été facile, mais j'espère que ça ne s'est pas entendu.
Bah, on a un magicien autour de la table, alors ça aide.
Et après, ce qui est bien, c'est qu'avec l'expérience et même en se regardant, maintenant, en regardant Fredo et tout, on voit quand ça se barre un peu en sucette dans une interview et on arrive vite à redresser la barre au moment de l'interview, ce qui fait moins d'editing pour Fredo. Donc, il a su capter notre attention aussi sur le moment pour éviter d'en avoir
ça
trop.
Ça fait moins d'editing et puis ça fait un épisode qui est tout de suite plus ténu, plus dense, quoi. Ça se tient bien, quoi.
Il y a aussi quelque chose qu'on peut dire, c'est que les émissions, on les fait habituellement d'une traite, on fait pas de pause, où je dis on faisait parce qu'on s'est rendu compte d'un truc tout con aussi, c'est que donc on a la chance que Fredo il soit photographe de profession et donc on a des très très belles photos de chaque invité.
Pas toujours, ça dépend.
Pas toujours, mais ça dépend pas que de toi justement, parce que parfois on fait la séance photo à la fin de l'émission, émission qui comme on l'a dit tout à l'heure peut être se finir tard la nuit et avec 2-3 bières, mais même sans ça en fait on a eu des invités qui étaient juste éclatés de fatigue, ouais, parce que c'est quand même, ça demande beaucoup je pense d'attention et d'énergie, et donc maintenant pour éviter d'avoir à retoucher un petit peu, de remonter des pommettes ou quoi, on fait une petite pause. Ouais. Et parce qu'au début, les invités sont sans doute un peu intimidés, donc tu vois qu'ils sont un peu, ils sont pas ouverts, ils sont un peu stressés, donc ça se verrait à la photo. Ouais. À la fin, ils sont éclatés, donc ça se verrait aussi. Donc on se fait
au milieu,
une petite
pause. C'était à peu près
petite
pas
pause
mal.
Syndicale.
Mais c'est vrai, je me souviens de fois où on a fait des photos à la toute fin de l'émission où l'invité, il avait tout donné, vous aviez tout donné. Et puis, tu vois, dans le studio, il fait un peu sombre. Je sais pas si vous avez déjà vu quelques images, mais... Et comme il fait sombre, je mets un petit coup de flash. Et là, j'avais l'impression d'avoir un lapin pris dans les phares, quoi. les premières images, le temps que l'invité s'habitue, mais c'était juste pas possible. Donc, j'ai ramé un paquet de fois pour arriver à avoir un bon shot. Mais bon, on peut pas leur en vouloir, aux invités.
Non, on peut pas leur en vouloir.
Non, 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 c'est sûr. C'est à nous de nous organiser
exactement,
là-dessus.
Exactement,
mais... oui. Mais ouais, c'est mieux maintenant cette petite pause. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue non plus pour accrocher les wagons aussi.
Et oui, parce qu'en fait, finalement, en off, tu racontes aussi des trucs et tu te dis « Ah, papa, attends, tais-toi, attends qu'on reprenne l'émission parce que c'est hyper intéressant. » Et souvent, quand on lui demande de le refaire, même spontanément, bah, tu n'as plus vraiment cette spontanéité, quoi. Tu l'as un peu moins en tout cas.
C'est vrai. Ouais. Bah, y a des invités d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était pour l'épisode de Bellara où on a interviewé Vincent l'artisien et donc on l'interview sur le thème que Bellara et après quand on a coupé les micros ça aurait valu d'avoir tous les micros allumés parce qu'il nous racontait des trucs de fou sur le surf, sa vision du surf, la molécule de l'océan et tout ça.
Carrément.
C'était assez dingue, ouais.
Et justement, ouais, ça peut aussi amener à la thématique d'après qui est les lieux. Donc ce qu'on appelle entre nous et à l'antenne, le studio Impact Zone, c'est ni plus ni moins qu'un sous-sol de maison anglaise qui n'est pas vraiment sonorisé. Mais c'est là qu'on a, je pense, fait le plus gros des émissions. Mais on en a aussi réalisé quelques-unes en extérieur. Et là, à chaque fois, c'est la surprise parce qu'on découvre l'environnement en y arrivant. On a la chance d'avoir été à chaque fois super bien accueillis, parfois dans des intérieurs très, très sympas et surtout très bien insonorisés. Mais on a aussi fait on a dû aussi gérer des situations un peu... ouais. Un peu compliqué en extérieur. Moi, je pense, ou pas d'ailleurs qu'en extérieur, mais je pense à celle de Johan Defay.
Ouais, en extérieur, on n'en a pas fait beaucoup, mais je pense que la première qu'on a dû faire, c'est celle de Johan Defay, et je pense que ça nous a vaccinés direct.
Ouais.
Pour toutes mais c'est la seule qu'on a fait dehors, ouais. dehors.
Mais après, on a fait le live l'hiver dernier.
Ouais. Mais ça, oui, mais différent. Le live, on savait. Ouais, ouais. Le live, on a le droit d'avoir des petits,
mais là,
des
y avait
pets.
Là, il faisait 40 degrés en plein cagnard, il y avait du vent. Il y a eu le voisin qui s'est mis à faire sa tondeuse ou son taille-haie, je sais pas.
L'alarme de la bagnole à côté.
Ouais, l'alarme. Ouais, ça, c'est ta tatouille, hein, Fredo.
Ouais, c'est top. J'adore.
Ouais, non, c'était assez dingue. Il y avait chez Daz aussi. Quand on a été chez Daz, il y avait des travaux à côté. Il y avait une maison qui se construisait.
Pour l'émission d'Andy,
ça. Ouais, enfin, il y avait la grue et tout ça. C'était l'enfer.
Ouais, les bulldozers et tout, les bip-bip des camions de chantier.
Ouais. Pour moi, l'enregistrement le plus fou, c'était celui chez Justin Becquerel. Enfin, chez ses parents qui tiennent le Natural Surf Lodge au nord de Seignos. Et donc, c'est un super endroit. Il y a des, c'est un super surf camp. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui veulent faire une expérience surf au nord de Seignos, d'aller là-bas, c'est vraiment cool. Donc, il nous a reçus dans une cabane dans les arbres. Et c'était bucolique. Hein. C'était bucolique, sauf qu'on était fin d'été.
Non, ouais, fin juillet, en soirée.
Ouais, en soirée, c'était blindé de moustiques. Et on était dans les arbres, ça bougeait, ça grinçait.
On
mettait
des spots pour y voir quelque chose.
Ah oui, on avait des spots, ouais, des spots lumineux, ouais. Et donc, du coup, on se faisait attaquer par les moustiques.
Et surtout, on avait le son des moustiques qui passaient dans les micros.
Ouais. Et ça, des claques sur les jambes et tout ça.
Et on s'est fait démonter par les moustiques toute la soirée. Ouais. Ça, c'était quelque chose. Après, c'est sans doute, ouais, comme tu dis, l'endroit le plus insolite où on a fait une émission. Parce qu'on était vraiment perché dans les arbres.
Puis tout était assez, assez. Donc l'endroit était insolite. On était super content d'avoir Justin parce que bah, c'était vraiment le jeune qui monte à ce moment-là. Maintenant il est un peu moins jeune. C'était il y a 4 ans, je pense, 3-4 ans. Mm-hmm. Mais qui monte toujours et qui sort super bien. Et on était super content de l'avoir, d'autant plus qu'à l'époque on était en partenariat avec Billabong et il était sponsorisé par Billabong. Donc on était super content de faire une interview avec lui. Et en fait on arrive, on lui dit ah ouais ben on est sponsorisé par Billabong et tout. Et là je me rappelle du gros blanc. Il nous a fait ah bah faut que je vous dise un truc. En fait, je suis en train de partir de chez Billabong, je vais signer chez Rip Curl.
Non, je crois qu'il n'avait pas dit encore où il allait.
Ah, il n'avait pas dit où il allait.
Mais il avait dit qu'il quittait Billabong, ouais.
Et là, nous, on avait quand même pas mal de questions qui étaient orientées Billabong aussi. Et ça nous a mis quand même un sacré coup de schlasse dans l'interview, l'histoire.
Ouais, puis surtout, on a vu qu'après, même si l'émission, en l'occurrence, elle est passionnante parce que bah, Justin, il a un parcours qui est hyper intéressant, mais on sentait qu'il y avait un peu de retenue et avec du recul dans sa réponse et qu'on s'attendait à ce que ce soit un peu plus fun. Ça fait partie des choses où en repartant, on t'a demandé ton avis, Fredo, là-dessus, parce que nous, on savait pas trop sur quel pied danser. Mais avec du recul, c'est que s'il était élevé en plein chamboulement et que ce qui, c'est seulement peut-être qu'il n'est pas entièrement la tête aussi à ça. Il faisait attention à ce qu'il pouvait dire par rapport à tel ou tel sujet parce que ben, c'était une situation hyper indélicate.
Ouais, lui, il était pas, on l'aurait fait 3 semaines plus tard quand tout était annoncé. Ça aurait été vachement plus facile.
Ouais.
Là, c'était, ouais. Que ce soit lui ou nous, on savait pas trop sur quel pied danser, quoi. C'était un peu plus compliqué.
C'était un peu plus compliqué. Et on poursuit dans les lieux. En fait, il y a aussi un truc qu'on peut préciser, c'est que pour le moment, on s'est toujours refusé de faire des interviews à distance sur du Zoom ou quoi. Alors, sauf quand c'était nécessaire pour les émissions spéciales avec des gens qui étaient pas là, notamment les anglo-saxons. Mais, on a toujours considéré que c'était vachement plus intéressant d'être en face à face autour de la table avec les gens. Et faudra peut-être qu'on prenne un petit peu de liberté par rapport à ça si on veut avoir certaines personnes qui sont dans les îles et qui viennent plus trop souvent dans le coin.
Ou partir dans les îles.
Alors, encore mieux, on passe un message d'ailleurs. On aimerait bien l'interviewer VTA David et Arsène et tout ça à Tahiti. Là où c'était un peu plus compliqué, c'était pendant le Covid. La première émission qu'on est allé faire, je me souviens, après le premier confinement, c'était chez Patrick Beven. Et là, on était en mode masque. Tous, je sais pas, mais je sais que nous deux, on avait le masque. On demandait à l'invité de pas l'avoir au moins pour les photos. Et je suis pas sûr que Patrick l'ait eu d'ailleurs pendant le reste de l'émission. Mais bon, bref, on en a fait quelques-unes comme ça. Laurent Pujol, moi, j'avais aussi le masque, je me souviens. Et ma femme était enceinte et je voulais, fallait faire gaffe par rapport à ça.
Ah, tu vois, ça m'a pas marqué. Je me souviens plus de tout ça. Moi, je me souviens plus, on avait fait, justement, Axel Lorenz, on avait dû lui faire un petit paplard, là, une petite autorisation de sortie. Je me souviens plus de ça que des masques. Les masques, ça m'a pas trop marqué. Mais au final, c'est peut-être que ton cerveau veut oublier les trucs pénibles comme ça.
C'est ça.
Mais moi, ça m'avait beaucoup fait rire d'avoir signé de ma main une petite autorisation à Axel Lorenz en mode tu as le droit de sortir pour venir à un pack zone.
D'ailleurs, on s'auto-signait nos autorisations pour venir enregistrer au studio anglais parce que pour venir d'où on était, il fallait absolument qu'on ait une autorisation.
Donc,
je me souviens, moi, je me tapais ma petite autorisation avant de partir. Et puis, je prenais ma bagnole et je venais ici au studio.
C'est fou, hein.
Chez Patrick, c'était aussi un peu l'alu, hein, quoi. Le mec est à bloc de sport. Et en fait, son salon, c'est une salle de sport.
C'est un tatami géant.
Ouais, quand il...
C'est un dojo chez lui.
Ouais, un dojo, mais littéralement, ouais.
Ouais, il est vraiment à fond de sport, mais c'est pas que sur Instagram, quoi. C'est vraiment sa vie est à bloc de sport et il a pas de salon. Il a une salle de sport.
Un dojo avec un canapé, des fauteuils posés dessus. Ouais.
Même pas, c'était, il y avait des fauteuils.
Si, 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 ouais.
J'ai l'impression qu'il était tout le temps sur un Swiss ball ou un truc.
Nous, on l'a fait par terre, mais si, si, il y avait une petite partie salon. Mais quand même, ouais. Ouais, ça, c'était très cool aussi. On se souvient qu'on avait un peu de, fait partie de celles qu'on a eu du mal aussi en post-prod à monter, puisqu'il y avait des petits pépins, des trucs à refaire. Et en émission aussi en extérieur qu'on a faite, il y avait Justine aussi Dupont qui est en convalescence au CERS, donc au centre de rééducation à Cabreton.
On avait un timing en plus.
Mais oui, on avait un timing, l'autorisation du staff médical pour qu'on vienne avec tout notre matos. Elle qui était hyper cool avec nous, mais qui devait pas être non plus au top moralement. Elle avait sa chambre qui donnait sur les vagues, je me souviens.
Ouais, puis elle avait pris une sacrée blessure. C'est-à-dire que ce qu'il faut préciser avec Justine, c'est qu'on l'a interviewée avant que ce soit Madame Big Wave Riding. Elle commençait à l'être, mais c'était pas la consécration des 70 000 XXL Awards et des records et toute la consécration qu'elle a maintenant. Elle était juste aux portes de ça et elle venait de se faire massacrer à Joe's, où justement ça mettait un sacré coup de frein à son ascension vers le top, quoi.
Ouais, ça c'est vrai.
Mais ouais, c'était particulier.
C'était particulier et en tout cas, elle a vachement pris le temps pour nous et ça a fait une émission super. On était quand même dans une chambre, je vais dire d'hôpital, non, mais pas loin quand même, chambre de sportif de haut niveau, blessé, quoi.
Et d'ailleurs, ça je le dis, je vous en avais déjà parlé, mais je pense qu'il y a certains profils comme Justine où il faudrait faire une interview update parce qu'il s'est quand même passé plein de choses dans sa vie depuis, et dont un enfant récemment. Et puis elle a tout eu, quoi. Elle a eu les victoires XXL, elle a eu je sais pas combien de titres et de consécrations de meilleurs sportifs et tout ça, elle a eu, mais c'est incroyable.
Un profil qui est devenu international avec la série
de vidéos. Tu sais ce qu'elle m'a dit récemment, donc j'étais au Portugal cette semaine et on devait se voir et en fait elle me dit je peux pas
Oui, elle a un lycée français, ouais, dont le gymnase porte son nom.
C'est ça. Ouais, elle dit je peux pas te voir, je vais inaugurer le gymnase du lycée qui va porter mon nom.
Incroyable.
Imagine.
C'est fou, hein.
Mais oui,
donc ça mériterait un update quand même sur tout ça parce que elle nous a raconté toute sa vie jusqu'au gros surf, et maintenant faudrait qu'elle nous raconte du gros surf jusqu'à la gloire, quoi.
Mais faudrait même la faire avec Fred, tu vois, Fred,
ouais,
David, les deux, et je crois qu'on en a déjà parlé il y a quelques mois, lui il est chaud ici pour le faire. Ben voilà, faut juste que les agendas de tout ce petit monde s'alignent avec le nôtre.
Ouais.
Mais avec grand plaisir, ouais. On parle d'émissions réussies, il y a aussi eu quelques fails, en tout cas moi je pense à un en particulier. Qui était justement, on a eu deux trois fois où Fredo était pas dispo et on tenait quand même à faire les enregistrements.
Bah, par rapport à ce que tu disais, c'est que c'était tellement compliqué d'avoir toujours les invités que des fois on voulait quand même maintenir la date.
Ouais, et alors je sais pas pourquoi, Jorgen, il me semble que je l'avais fait moi-même, je m'étais pas trop mal sorti, ouais. Et donc il y avait Pauline aussi qu'on voulait absolument avoir et qu'on voulait absolument recevoir et qui nous avait dit ok, et ce jour-là Fredo n'était pas dispo. Et comme on disait tout à l'heure, c'était un peu techniquement un peu compliqué de tout gérer. Et donc, j'installe le matos. On a la chance de pas habiter très très loin quand même avec Pauline. Et je crois que t'étais là où
je venais d'arriver. Et là, t'étais en panique.
J'étais en panique en disant, putain, ça marche pas, j'arrive pas, je sais pas monter le micro sur la carte de son. Donc, bref, bim bam boum. Fredo, je t'appelle et on fait une visio et tout.
Outline.
Ça marche pas, la hotline technique. Et donc, j'ai dû décommander Pauline, mais genre un quart d'heure avant son rendez-vous.
Je me rappelle que c'était une excuse bidon. D'ailleurs, Pauline, si tu t'écoutes ce podcast, tu sauras qu'on t'a menti. C'était pas une excuse bidon, c'est qu'on n'était juste pas capable de brancher trois micros à ce moment-là. Fredo n'était pas là, donc on a décommandé avec une excuse bidon.
Je crois que j'ai dit problème technique, mais j'ai pas dit juste incapacité
à brancher le micro.
Maintenant, ça va beaucoup mieux. Et voilà. Et Pauline, elle est revenue quelques semaines après, je crois juste avant son mariage d'ailleurs, faire l'émission. Mais ouais, ça, c'était le plus gros fail, en tout cas en ce qui me concerne. Le moment. Pour le reste, quand on touche du bois, tout s'est toujours bien passé.
Et par rapport à ce que tu disais sur le présentiel, alors moi, je fais partie de celui qui est dans la bande qui veut vraiment du présentiel parce que je trouve qu'il se passe un truc quand on est avec les invités, qu'on est dans la même salle. Et c'est vrai que si on a le choix de faire un invité en présentiel ou un invité à distanciel via un écran, je trouve que l'échange se passe toujours beaucoup mieux on en retire vachement plus d'informations et d'histoires que si on est en distanciel ou quand le mec en a marre en distanciel, et ben il en a marre et ça se voit tout de suite et il y a plus moyen de le raccrocher quoi.
Ouais, et puis tu connais pas son environnement, tu sais pas si réellement, enfin il est pas aussi concentré, il est pas avec toi comme il serait là autour de nos murs. Il peut avoir des distractions, quelqu'un qui vient ou pas, et comme tu dis, ça peut le déconnecter, et même si ça doit durer que 30 secondes, avec quelqu'un qui sonne chez lui ou quoi, tu repars pas derrière de la même manière. Donc c'est vrai qu'on se l'est interdit, il y a plein de podcasts qui ne fonctionnent que comme ça, il y en a plein qui n'ont fait que ça pendant le confinement et d'autres choses.
Bah d'ailleurs, nous, on s'est fait interviewer en podcast comme ça.
Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai.
Le Temple of Surf podcast, ouais. on le salue bien d'ailleurs. Ouais. Alors lui, il en voit, par contre, en termes
ouais, lui, il a du rythme.
Ouais. Ah, c'était sacrément compliqué, je me souviens. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est un Italien qui habite à Dubaï ou à Abu Dhabi et qui interviewe tout le monde. Il arrive à avoir du sacré beau monde, hein.
Il a eu Machado, il a tout le monde quoi, des shapers de dingue, il a eu John Paisel, il a eu je me demande s'il a pas sorti Britt Merrick là, j'ai vu sur Insta ou un truc comme ça.
Et donc au beau milieu de tous ces gens-là, le mec s'est dit tiens, si j'interviewais un Pack Zone. Ce qui était hyper flatteur pour nous.
Je pense qu'on doit être l'audience la plus pourrie de tout son podcast.
D'autant que, pour la petite histoire.
C'est pas grave, on l'a bien vécu.
Bah oui, non, ça va.
Mais moi, je me souviens que j'étais donc encore chez Quick. Je sais pas où vous étiez, vous, mais on a fait un Zoom. Moi, j'étais allé me planquer dans ma voiture, parce que je pouvais pas faire ça au bureau. Il y avait des mondes partout autour.
On était chez moi, non?
Peut-être.
Nous deux, ouais.
Il me semble.
Ouais. Ah, vous étiez ensemble,
ouais. Ouais.
Et je t'avoue que je n'ai jamais écouté cette émission.
Mais est-ce que c'était plus douloureux que la première interview qu'on a fait avec PH Lettres pour.
Oh là là.
Pour The Surfistan. Où on était absolument déconstruits dans tout ce qu'on racontait. Ça devait être l'enfer pour lui à imiter.
J'adore ce mot déconstruit. Ouais. Bah, d'ailleurs, on lui passe le bonjour à PH et on le remercie parce que c'était vraiment cool.
Ouais,
c'était tôt aussi hein, dans l'histoire ouais. d'Impact Zone. De...
Je crois qu'on n'avait même pas fait d'invité encore.
Je sais plus.
Si? Je sais plus.
Ah, c'était vraiment vers les tout
moi,
débuts.
Moi, j'étais après ouais. arrivé chez un pote à nous qui nous avait prêté sa maison pour le décor. Éclaté de ma journée, mais vraiment épuisé et un peu tous pareils. Mal fringué, rien à dire, ah, absolument
les
pas concerté.
On était fiasco là.
On était fiasco. Mais il a dû passer un peu de temps sur le montage et tout en plus. Donc merci PH.
Ouais,
mais
il a mis du temps à le sortir, donc je pense que ça devait pas être simple.
Peut-être qu'il savait pas comment nous dire que c'était naze et qu'il a sorti pour nous faire plaisir.
C'est possible. Hein?
C'est possible. Bon, bien le bonjour en tout cas parce qu'on sait qu'il les écoute et qu'il les partage régulièrement. On peut enchaîner sur une autre petite thématique qui fait qu'en fait, au fur et à mesure de l'histoire d'Impact Zone et de notre format avec les invités qui marchaient bien, on a été contacté par l'Eurocima aussi. Donc ça fait 2 ans et demi, qui nous a proposé de faire la même chose avec au micro des personnalités de l'industrie. Et donc pour les gens qui connaîtraient pas l'Eurocima, c'est l'asso qui regroupe tous les acteurs de l'industrie de la glisse en Europe. Et c'est vrai que finalement...
Tiens, t'en parles vachement bien.
T'as vu, depuis quelques temps, j'en parle bien mieux.
Incroyable.
Ouais, incroyable. Et en fait, on s'est rendu compte avec eux que bah, c'est pas les gens au micro, c'est pas forcément de simples patrons d'entreprise, de simples managers ou quoi. C'est, comme on le dit souvent en introduction, c'est des gens qui ont eu une vision, qui ont eu du flair et qui ont eu l'audace d'y aller. Et ça reste avant tout des surfeurs et des surfeuses et des gens qui, avant d'attaquer leur carrière, ont eu des vies souvent incroyables. Vies qui se sont souvent continuées pendant la carrière et on a commencé avec François Payot qui a été fondateur de Rip Curl Europe et qui a occupé, ben voilà, qui a été PDG monde de Rip Curl. Et donc, ben, c'est intéressant de voir que là, on est à 18 épisodes avec eux, qu'on a fait des gens comme Marie Chou, Pierre-Bernard Gascogne, on en parlait tout à l'heure, cofondateur de Surf Session avec Gibus. Et pareil que pour Gibus, lui, personnage un peu dans l'ombre quand même par rapport à Gibus, mais audience hyper bien par rapport justement à son profil. Et histoire de fou, c'est un podcast qu'on incite les gens à aller écouter.
Alors ce qu'il faut préciser, c'est que là sur le podcast, le choix des invités ne nous appartient pas. C'est vraiment l'Eurocima qui nous suggère les invités. Enfin souvent, ils nous proposent plusieurs invités et après on en discute, mais c'est quand même eux qui décident. Et ils ont été quand même plutôt bons sur le casting jusqu'à présent. Hein. C'était à chaque fois, c'est des gros bonnets avec une bonne histoire.
Ouais, carrément. Et donc, on le précise, puisque c'est pas encore clair pour tout le monde, manifestement, c'est pas le podcast Impact Zone Surf Podcast, et donc il est pas disponible sur les applications, les plateformes de streaming sur Impact Zone. Il faut bel et bien taper Inside Eurocima pour le trouver. Nous, on les repartage tous, évidemment, sur notre compte Instagram, mais c'est deux flux, deux programmes différents. Certains épisodes en anglais, mais les 90% d'entre eux sont en anglais, en français. Bah
après, ouais, comme le nom l'indique, c'est l'Eurocima, donc on doit en faire en anglais, ce qui est bien normal, parce que tout le monde doit pouvoir écouter. Après, c'est vrai que ça serait certains, ça serait pas mal de les sous-titrer. C'est pas toujours facile.
Ouais.
Même pour nous, c'est pas toujours facile en anglais. Des fois, c'est un peu compliqué, mais ouais, c'est après, c'est plutôt sympa. Je crois que c'est donc c'était Franck Laporte Forêt qui avait initié ce projet à l'Eurocima.
Ouais.
Et c'est en discutant avec Daz et en écoutant celui de le Impact Zone de Mickey Picon, qui est sur le Impact Zone de Mickey Picon. Il y avait toute sa carrière de surfeur pro, mais il y avait une grosse dimension business aussi. Et c'est vrai qu'il en parle vachement bien. Et du coup, je crois que c'est ça qui les avait motivés à faire ce programme.
Bah bien leur en a pris, parce que nous, on prend vachement de plaisir à recevoir tous ces gens-là au micro. On se met un peu plus la pression que pour les nôtres. Les émissions sont bien plus préparées, parce que c'est quand même souvent des profils qu'on connaît un peu moins que les surfeurs qu'on reçoit à la table.
Ouais, et puis il y a surtout beaucoup moins d'infos disponibles entre un mec qui a gagné plein de compètes et qui a fait plein de couvertures de magazines, et puis quelqu'un qui a juste fait une carrière professionnelle dans le business. C'est vrai qu'il y a on trouve moins de billes sur Internet, quoi.
Ouais, et puis surtout, c'est la volonté de l'Eurocima de mettre en avant des gens qui ont des histoires de fous, mais qui ont volontairement été mis en retrait ou pas trop dans la lumière. Des grands patrons, grosses patronnes de boîtes, mais qui n'ont pas cherché la gloire à tout prix. Donc c'est vrai que parfois, on galère un peu à trouver des infos. Mais et là, ce qui est intéressant, c'est tout le travail d'archives aussi qui est fait de leur côté, où on a, ils se prêtent vachement au jeu jusqu'à ressortir aussi leurs albums photos. Et donc, on voit les débuts vraiment de l'industrie du surf, et donc les débuts du surf professionnel en Europe, des photos des Rip Curl Pro, d'Osgore, ce genre de choses. C'est toujours assez sympa. Donc voilà, Inside Eurocima, c'est notre deuxième podcast finalement. Et celui-ci a 2 ans et demi et donc quasiment 20 épisodes. Donc on est finalement c'est l'émission des 70 épisodes, quoi, qu'on est en train d'enregistrer ce soir.
Quelque chose près. Oui.
Quelque chose près. Si on devait, avant d'avancer, enfin, sur les rubriques de fin, mais s'il y a une émission, toi Rémi, une émission avec invité, à ressortir plus que les autres, ce serait laquelle?
Il y en a plusieurs. Tu peux en dire plusieurs?
T'as le droit.
Alors, Jérémy, parce que il a été hyper honnête et on sentait qu'il était vraiment, c'était juste avant qu'il arrête, en fait, sa carrière. Et on sentait qu'il était vraiment dans, voilà, je veux laisser ma legacy et mon héritage au surf français. Et chose qu'il fait très bien maintenant en équipe de France. Et du coup, je trouve qu'il a une petite saveur particulière parce qu'on l'a eu vraiment juste avant l'annonce officielle qu'il arrête, mais dans l'interview, ça se ressentait. Et ça, je trouve qu'il y a une petite saveur particulière. Johan Duru, parce que il a parlé pendant 2 heures. Donc ça, c'était plutôt cool et que c'était super intéressant. Et avec Yann Fontaine, on s'est bien marré aussi.
Ouais, c'était valide. Cool.
Yann Fontaine, on a bien rigolé. Mais après, il y en a plein. Enfin, ils sont tous bien, mais ouais, ils sont tous bien. Chacun à leur manière, mais ouais, si vraiment le côté exceptionnel, je pense que c'est Jérémy.
Mm-hmm. Fredo.
Moi, c'est Michel Laronde, sans aucun doute. Michel Laronde, parce qu'il y avait, on parlait tout à l'heure du distanciel, du présentiel. Je pense que Laronde, on l'aurait eu en distanciel, on perdait la moitié de ce qu'on a eu dans l'émission, en fait, parce que lui, il a vécu le moment, il y avait une émotion générale dans le studio, c'était juste parfait. Et ouais, pour cette raison-là, ouais, Michel Laronde, et aussi parce que je l'ai super bien spoté, parce que je savais que ce serait une des meilleures émissions au niveau de l'audience.
C'est vrai. Pour moi, c'était une grosse surprise.
Voilà. En sortant, j'ai dit là, il s'est passé un truc et je suis sûr que ça va. Moi, ça m'a fait vibrer. Je suis sûr que ça va faire vibrer plein de monde aussi.
Et ouais, et on peut le dire, aujourd'hui, c'est l'épisode le plus écouté sur les plateformes avant Jérémy. Il talonne, mais mine de rien, ouais. Alors que toi, c'est pas un profil qui est si connu que ça parmi le grand public, en tout cas. Mais oui, t'as raison, il est arrivé.
Grosse charge émotionnelle quand il parle de Justine, etc. C'était
ouais,
c'était juste top. Quoi.
On est passé du rire aux larmes avec lui, ouais, vraiment, ouais. T'as raison. Grand moment avec Michel. Moi, je dirais, j'ai adoré la soirée avec Daz, justement.
Ouais, c'était top.
Ça, c'était top parce que pareil, là aussi, on passait de. Il raconte très très bien les histoires. Il en a quelques bonnes à raconter. Il y a eu l'épisode Quick Kelly, tout l'épisode Euroforce, tout ça. Nous, on est des gros consommateurs de vidéos de surf, donc forcément, c'est des choses qui nous parlaient. Donc ouais, celle-ci. Et toi, je fais le lien avec celle de Vincent Cardasi qu'on a sorti aussi il y a quelques semaines, qui, pareil, je pense qu'il est dans mon, peut-être bien dans mon top 3, quoi.
Ouais, il peut être dans le top 3 des lieux aussi un peu exceptionnels dans son bureau, putain, ouais, où il n'y avait pas la clim alors qu'il faisait 50 degrés.
Ouais, ouais, exact.
Ça fait partie des lieux bien exceptionnels.
Et on était très pro parce qu'il nous a proposé des bières à plusieurs reprises et qu'on a refusé jusqu'à la fin de l'enregistrement.
Il a même été insistant.
Ouais.
Donc toi, ça serait Daz et Vincent.
Ouais, j'en oublie sans doute, mais j'ai adoré aussi... j'ai bien aimé Damien, tu vois. Castara, c'était si cool de parler justement. Il fait partie des profils avec qui on pouvait à un moment donné sortir du surf pour parler d'autre chose. Et quand il a parlé de, quand il a raconté qu'il faisait partie de la Société des explorateurs français, ben, il nous parlait d'un univers qu'on maîtrisait ou qu'on connaissait pas du tout. Ça, c'était quand même vachement sympa. Voilà. Puis bon, voilà. J'adore le profil de Damien. Et ça me fait aussi penser à, tu vois, des profils comme Tom Frager, où finalement, on a passé un vrai long moment à parler d'industrie de la musique, on a oublié le surf.
Ouais, bien plus que de surf d'ailleurs.
Ouais, au final, exactement. Et c'était l'occasion de découvrir comment marchait l'industrie. On a posé des questions de béotien sur très naïf sur comment ça marchait. Il nous a raconté qu'il était parti faire des stages d'écriture avec Francis Cabrel et tout. Pareil avec Alain Gardinier qui nous a raconté les rouages de l'édition. Tout ça finalement, il y a peut-être des gens qui peuvent être un peu perdus et saoulés en se disant attends, je suis censé écouter un podcast de surf. Moi je me dis à titre perso, c'est bien, ça permet à travers le surf de découvrir d'autres univers.
Vincent Duvignac nous a parlé géologie.
Carrément, c'est vrai.
Et d'ailleurs pour briller en société, je le ressors des fois son petit tips du sable du Massif Central versus le sable des Pyrénées.
Et alors, ça fait son effet ?
Ça fait son effet, ça fait connaisseur du banc de sable. Fait connaisseur du banc de sable. Mais lui, il avait sûrement dû le lire quelque part. Moi, je fais que répéter ce qu'il m'a dit. Mais mais ouais. C'est vrai que chaque invité a son petit truc. Et après, ouais, c'est vrai que tu as des invités comme Daz où il y a tellement de paramètres où là, justement, musique, vidéo, culture, business et tout, là, t'en prends plein les mirettes.
Ouais. D'autant qu'on le disait tout à l'heure, on a le rythme qu'on a, qu'on voudrait être un peu plus intense. Mais c'est vrai qu'on cale en fait finalement un pack zone au milieu de tous nos autres jobs. Et aujourd'hui, on est sur un épisode par mois. On va être beaucoup plus rigoureux par rapport à ça. Le but est de...
Maintenant, on a un calendrier partagé et tout.
Ouais, carrément. Tu vois, il aura fallu 6 ans pour le faire. Si on est bon, normalement, on sort l'épisode le premier mardi de chaque mois. Et ce
qui... Grosse annonce là que tu fais. Hein. Ça
va, ouais, c'est clair que là, tu viens de t'engager, quoi. Alors, Romain s'est engagé, mais Fredo et moi, on n'a rien dit. Hein. Donc, c'est... Voilà.
Et Rémi a fait un événement Google infini. Donc, tous les premiers mardis du mois jusqu'en 2072, on a quand même un épisode à sortir.
C'est ça.
Ben voilà. Non, mais on a la volonté d'en faire plus. Mais ben, pour le moment, comme on le répète souvent, c'est un projet bénévole. Donc, si c'était plus rémunérateur, ça pouvait remplacer d'autres missions. Je pense qu'on aimerait tous les trois en faire davantage et on aurait largement assez de gens et assez d'idées en tête pour pouvoir avoir un rythme soutenu, plus soutenu en tout cas, mais voilà, la réalité est ce qu'elle est. Sortir un épisode, ça demande quand même du temps, entre la prépa, l'enregistrement, la post-production et tout ça. Donc pour le moment, on s'en tient à ça. On a quand même des petits projets, des missions en direct et live, et ceux qui pourront, je pense, s'ils se font comme on en a l'intention, s'intercaler au milieu de tout ça.
Bon, après, c'est vrai que si on arrive à trouver des partenaires, et moi là, je suis assez surpris en fait de la difficulté à trouver des partenaires pour un pack zone. Alors peut-être on n'a pas été très bon hein, en commercialisation, mais et c'est un truc que je trouve assez général dans l'industrie du surf, et là je vais pousser mon petit coup de gueule. Je trouve que les marques qui vivent de cette culture surf sont très, il y en a très peu qui supportent réellement la culture surf. Et je trouve, d'un point de vue marketing et d'un point de vue marketing à long terme, c'est un peu une erreur, parce que si tu supportes pas la culture qui fait ce que tu es, au final tu coupes la branche sur laquelle tu es assise. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule, mais je trouve que c'est assez général et ça nous concerne pas que nous. Quand on voit tous les magazines qui ferment, qu'on voit qu'il y a moins en moins de vidéos, qu'on voit que c'est de plus en plus les riders qui doivent financer leurs vidéos, c'est juste un constat général. C'est pas que parce que je boude, parce que on donne pas des sous à Impact Zone, c'est juste le constat général. Et par exemple, ça me fait plaisir de voir des marques qui font des programmes informatifs sur la culture surf et tout ça. Ça, je trouve ça plutôt cool.
Non, mais c'est sûr. Et t'as raison aussi d'ouvrir à d'autres médias. On parlait tout à l'heure de Jibus, qui a déjà été hyper cool, qui nous a offert deux pages gratuites dans les pages de Surfer Journal pour promouvoir Impact Zone. Il n'était pas obligé de le faire. Il le fait vraiment parce qu'il veut défendre et supporter la culture surf. Et nous, si à notre niveau aussi, ce qu'on peut dire, c'est aussi pour lui rendre l'appareil, mais aussi parce que c'est hyper important aux yeux de tout le monde, c'est supporter de la manière que vous pouvez la culture surf. Il y en a qui le font, notamment nous, en participant à notre plateforme collaborative Tipeee, et on les remercie vraiment parce que c'est hyper important. Là, on parle dans des super micros, sur de très beaux pieds, on a une belle table de mixage, tout ça, c'est grâce à eux. Les magazines de surf, ils seront pas toujours là. On a tendance à considérer que c'est acquis et de l'acheter quand on en a envie. C'est très compliqué pour tout le monde. Rémi l'a dit, les marques de surf ont de plus en plus de mal ou n'ont pas la volonté de soutenir, ou elles préfèrent mettre leur budget un peu ailleurs. Le papier coûte cher, donc les magazines coûtent de plus en plus cher, et c'est compliqué de trouver une économie fiable pour les magazines. Et inexorablement, à ce rythme-là, un jour, il n'y aura plus de magazines en kiosque.
Après, le risque, c'est qu'il n'y ait plus de magazines et qu'il n'y ait plus de culture, et même qu'il n'y ait plus de contenu. C'est-à-dire que si le seul contenu qu'on produit, c'est une publicité pour un short ou pour une wax ou un truc comme ça, au final, on tue un peu la culture. Et tu vois, il y a de la culture surf parce qu'il y a des marques comme Quicksilver qui ont décidé de faire le film Mad Wax, ou Astrodeck qui a décidé de faire les vidéos Adrenaline Surf Series ou Wave Warrior, ou Lost qui a décidé de faire ses vidéos What's Really Going Wrong ou des trucs comme ça. Ou à un moment, il y avait Billabong et tout ça qui sponsorisait pour Specimen et toutes les vidéos Taylor Steele. Et c'est ça qui fait qu'il y a de la culture. Et si il n'y a pas ce contenu qui est créé, que ce soit vidéo, audio, magazine, si le seul contenu qui est créé, c'est une publicité pour un short ou un t-shirt, c'est un peu dommage, parce que ce qui fait rêver réellement le surfeur, c'est le contenu et c'est les gens qui surfent et les aventures et les belles histoires. Et c'est pour ça que j'ai vachement de respect. Justement, dans Insider Ocima, on a interviewé Emmanuel de Bruyère de Oxbow, et où il a cette stratégie de culture, cette stratégie de créer du contenu, de le diffuser en cinéma et tout ça, et je trouve ça chouette et j'aimerais bien en voir plus.
Carrément. Et en plus, toi, tu parlais d'histoire, vraiment de culture. On n'ouvre pas une page Oxbow comme ça sans raison, mais c'est vrai qu'ils ont refait en fait une projection la semaine dernière à Biarritz. Ils ont rediffusé le film sur Mundaka, dont avait parlé un peu Vincent Cardazic sur cette journée exceptionnelle en septembre 2006. Là, ils refont un super documentaire sur Robbie Page. Tu vois, une marque comme ça n'a pas forcément besoin de le faire. Elle le fait parce qu'elle sait que c'est important pour son héritage propre, bien sûr, mais aussi parce que ben c'est des histoires, c'est des caractères, et ça c'est très très cool. C'est pas les seuls, on va pas se mentir. Il y a d'autres marques aussi qui continuent à faire des choses, mais eux se donnent les moyens, à leur dimension, ça reste comme une marque est bien plus petite que les autres, de créer de vrais projets vidéo. Et en plus, au-delà de ça, ensuite, ils organisent des tournées sur tout le littoral et dans les grandes villes pour pouvoir le montrer au plus grand nombre. Donc, c'est chambé, big up, on referme la page. C'est pas un appel du pied à Oxbow, mais c'est
bien. Ouais, non, mais après, il y en a plein qui ont fait des trucs ou qui continuent à le faire. C'est pour ça que j'ai cité toutes ces marques. Tout le monde a mis sa pierre à l'édifice, mais j'ai l'impression que, marché devenant plus concurrentiel et tout ça, et la publicité étant plus concurrentielle avec les réseaux sociaux, les budgets sont plus éclatés. J'ai l'impression que la phase culture en prend un petit coup de temps en temps.
Puisqu'on parle de culture, je ramène ça à l'émission. Qui dit culture dit aussi musique. Pendant longtemps, en fait, on a mis des petits morceaux de musique, souvent extraits des vidéos, dont celle que tu as citée tout à l'heure, Rémi. Déjà pour faire une cassure à chaque fois. Quand on pouvait, c'était en lien avec l'invité, mais pas toujours. Et puis, c'est rigolo, mais bon, alors, on a arrêté de le faire parce que clairement, on n'a pas demandé à chaque fois à tous les auteurs si on pouvait prendre leur vidéo. On l'a fait que deux fois et on en a parlé tout à l'heure. Et on s'est dit, c'est un peu risqué parce que c'est un coup à se faire repérer, et pourquoi pas, genre, à ce qu'on voit Impact Zone, genre, cuter ou se prendre une grosse amende. Au-delà de ça, j'ai aussi des gens qui me disaient que, tu vois, au moment d'écouter le truc, eux, en fait, ils passaient les morceaux de musique. Parce que on était peut-être une toute petite poignée à avoir envie de réécouter le morceau qui
je pense que c'est un peu comme la virgule sonore, ça. Non, Fredo. Enfin, sauf que c'est plus cool qu'une verrue.
Quelquefois, c'était vraiment pertinent parce que c'est, par exemple, si tu repenses à l'épisode de Daz, les morceaux de musique sur l'épisode de Daz, ils avaient vraiment du sens parce qu'il était partie prenante dedans.
Ouais. Oui. Il y avait la part de Mickey dans Fight Tony et tout ça, ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais après, quand une émission qui est hyper intéressante avec vraiment beaucoup de densité dans le propos, il y a pas besoin de rajouter de la musique. Et puis c'est vrai qu'on prenait quand même quelques risques au niveau des droits.
Ouais, c'est clair. C'est clair.
Donc, dites-nous, vous nous direz, tiens, soit sur Instagram, soit en sondage sur Spotify, si ça vous manque ou s'il faut qu'on remette des musiques.
Quand on parle de ça, la musique, ça me rappellera toujours, c'était notre épisode 3, je crois, et c'était au moment où on parle de la droite de Mick Fanning. D'ailleurs, Stab a fait un super épisode là sur toute la story derrière plus ou moins ce montage vidéo, et donc il y avait une chanson qui s'appelait Rattlesnake de qui, Romain, c'était quoi le nom du groupe?
Fredo,
c'est quoi le nom du groupe?
King Lizard, non, c'était ça. King, ouais. Lizard and the Wizard, je sais plus, il y a un truc dans ce, ouais, dans ce
bon truc-là. Déjà rien que le nom du groupe, il était hyper dur à prononcer. Romain a dû s'y prendre 8 fois ou plus, et en fait le morceau, c'est juste la même boucle qui dure pendant 8 minutes.
Une ritournelle qui rend dingue. Ben, on va vous la mettre d'ailleurs un extrait en petit fond.
Et c'était juste l'enfer, je pense que je l'ai eu en tête pendant 8 jours derrière.
Ouais. Rattlesnake. Ouais, une des premières émissions. Et donc voilà, vous nous direz, ouais, vous nous direz si ça vous manque ou pas, ou si c'est très bien qu'on a arrêté. En plus, c'était mis dans un peu de taf aussi à chaque fois d'aller retrouver les trucs.
Mais moi, sinon, des fois, tu demandais aux invités et puis ils te sortaient un truc qui avait rien à voir avec les Last Moules ou rien à voir avec ce qui était Impact Zone, et t'es là, waouh.
Et t'étais gêné de lui avoir demandé parce que t'avais pas du tout envie de mettre ça dans l'émission, ouais. Que ça allait péter ta playlist Spotify. Ok, on a parlé de vos meilleures émissions à vous. On arrive vers la fin de notre petite émission spéciale à nous, justement. Donc les auditeurs connaissent la chanson. Voilà. On a 2 rubriques récurrentes et il est grand temps, effectivement, c'est une très bonne idée, Rémi, de suggérer qu'on se raconte un peu les nôtres.
Déjà, avant de se raconter les nôtres, moi j'aimerais vous demander, à vous deux, les gars, quel était le meilleur coup de pression que vous ayez entendu dans l'émission.
Je t'avoue que celui de Boris Le Texier, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps, qui raconte qu'il s'est quasiment noyé pendant le Surf Session Challenge il y a quelques années, était assez ouf parce que on a mis la vidéo sur Instagram, mais tu sentais vraiment, ça fait partie, c'est tout l'intérêt d'avoir ces coups de pression qui sont devenus audio, même vidéo plutôt qu'à l'écrit comme avant, c'est que tu sentais là l'intensité du récit et qu'il revivait le truc et que c'était un vrai traumatisme pour lui. Donc j'en oublie peut-être d'autres, mais là, parmi les récents, c'est celui-ci, ouais. Et toi?
Alors, tu sais qu'on a foutu la merde en plus avec.
Je sais. J'aurais même pas dû en reparler. J'y ai pensé là en le racontant.
Bon, on peut redire pourquoi on a foutu la merde. C'est que quand t'es sorti l'émission de Boris, c'était pile poil au moment où ils voulaient relancer le c'est quoi, Parlementia Challenge? Le Parlementia Challenge, donc compète de grosses vagues sur la vague de Parlementia à Guétari ou à Bidar. Ça dépend de quel côté de la frontière on se trouve. Bref, et du coup, ça a refoutu le sujet de la sécurité sur ce genre de compète dans la face de tout le monde, quoi. Mmh. Et apparemment, ça a mis un peu le bordel chez les organisateurs.
Ouais, j'en ai entendu parler. Donc, donc désolé de remettre une nouvelle fois ça sur le tapis, mais en tout cas.
Bah,
ouais.
Ça va, c'est la fin des saisons de grosses vagues.
À toi.
Alors moi, celui qui était particulièrement heavy, et pas drôle du tout d'ailleurs, parce qu'il y a des coups de pression drôles, mais celui-là, il était pas drôle. C'est celui de Sylvain Cazenave qui raconte un boat trip où ça a mal tourné, ils ont eu une collision avec un bateau. Et moi, j'avais entendu parler de l'histoire parce que elle était dans le bouquin de Nat Young qui s'appelle That's Nat and That. Et donc il parle de ça. Et là, en fait, au moment où il commençait à en parler, je vois que Romain est trop choqué du truc. Et moi, j'étais au courant, donc j'arrive à rebondir en lui posant des questions. Et je vois qu'en fait, Romain, il a été un peu désarçonné par le par la teneur des propos. Donc, je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir plus. Mais c'était bien, bien solide comme truc.
Ouais, ouais, il y a eu des morts, hein, clairement. Il y a eu des morts, accident, c'était, ouais. C'était pas drôle.
Voilà, c'est celui-là.
Non, pas joyeux.
Non.
Et ben, moi, j'ai le droit d'en citer un d'Inside Hiroshima.
Bien sûr.
Hein, ouais, 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 ouais. C'est, ben, moi, c'est celui de Belly. Il est vraiment bien, celui de Belly. Celui où il raconte l'histoire, on lui a fait croire que...
Ah ben voilà, un coup de passion drôle.
Voilà, que que Kelly était en tôle et il n'arriverait jamais à destination, etc.
Ouais, ouais.
Et qu'il est monté dans les tours et la façon dont il le raconte, c'est juste sublime.
Carrément, carrément. Il raconte bien les histoires, lui aussi.
Il est plus drôle.
Faut les comprendre. Et du coup, on peut peut-être refaire la route dans l'autre sens. Hop, on repart sur Rémi. Ton coup de pression, allez, à toi. Puisqu'on écoute les gens nous les raconter depuis 50 épisodes, mais...
Alors, moi, j'ai pas réellement de gros coups de pression surfistiques.
Tant mieux.
J'ai eu quelques boîtes où je me suis fait un peu secouer, mais rien de vraiment vénère comme nos invités. Après, j'ai eu des coups de pression de voyage, où je me suis retrouvé dans des endroits un peu où c'était pas le bon endroit et pas à la bonne heure et notamment au Mexique, je me suis retrouvé dans des bars vraiment type j'étais en bar à Californie avec un pote et on va boire des bières et jouer au billard dans un bar, sauf que c'était un gros bar en finale de Narcos et tout ça, et
c'est comme dans le livre sans nom.
Ouais, un peu le livre, ouais, mon Degada ou un truc comme ça, ouais, vraiment le livre sans nom ou Desperados, ou enfin vraiment des bars craignos. Et on était dans ces trucs-là et en fait, on était les seuls blancs dans ces trucs-là et tout le monde était armé. Et vraiment tout le monde était armé avec les flingues posées sur la table, hyper visibles. Et une fois que t'es rentré dans le bar, tu vas pas faire demi-tour ou un truc comme ça. Donc tu rentres et puis tu fais ton truc et tu fais style de rien. Mais et au final, en plus après, les gars ils viennent nous parler et tu parles avec eux et t'as pas trop envie de dire des conneries. Mais en même temps, si tu leur parles pas, t'es mal poli. Enfin bref, c'était un peu chaud à gérer comme ça. Et donc on a dû boire des godets, des tequilas avec eux pendant un gros moment de la soirée. Et puis plus tu bois, plus t'as aussi l'honnêteté du soulin. Donc faut faire gaffe à ce que tu racontes. Et ouais, c'était un peu chaud. C'était un peu chaud, ouais. C'est mon tout ce périple là, j'ai fait un périple de 3 semaines en Baja California. C'est je faisais mes études à San Diego et on est parti avec un pote pendant 3 semaines en Baja California. Et c'était vraiment à l'époque où c'était bien craignos. Enfin ça l'est toujours, je pense d'ailleurs. Et mais bien moins développé que maintenant et on dormait en camping. On avait une tente, juste une tente, et en fait, tout était craignos tout le temps. Tout le temps. Partout où on s'est arrêté, c'était tout le temps craignos. Et on est rentré vivant. Donc ça, c'était bien. Mais, j'avoue que quand on a repassé la frontière dans l'autre sens, on s'était fait piller la bagnole. On avait plus de vitre arrière. La vitre, elle était cassée. On était rentré sans vitre. Avec la voiture toute pourrie. On avait perdu le pot d'échappement parce qu'on avait failli rester bloqué dans le désert. Il y a eu cette histoire du bar. Et en fait, quand on a juste passé la frontière des États-Unis, on s'est dit, waouh, ouais, c'est bon, on est sauvé.
Magique.
Fredo.
Moi, coup de pression, j'ai pas vraiment de... Si, j'ai un coup de pression surf, mais un coup de pression de cook, parce que je suis arrivé ici, moi, il y a une grosse dizaine d'années, et j'arrivais de Méditerranée. Et en Méditerranée, du côté de Montpellier, quand tu voyais 2,50 m sur l'épreuve, bah, t'allais à l'eau, parce que c'était 2,50 m, 6 secondes, tu vois. Et quand je suis arrivé ici, bah, je regardais juste la taille de la houle, puis je regardais pas du tout la période, j'avais pas compris, pas bien intégré le truc. Et j'allais beaucoup à la côte, j'habitais à Biarritz à l'époque, et donc j'arrivais à la côte des Basques. La première semaine où j'arrivais à Biarritz, c'était génial, tous les jours j'y allais, et puis un jour j'y vais, je vois 2,50 m, sans faire gaffe à la période qu'il y avait, je me fous à l'eau, et tu sais, à la côte des Basques, tu peux passer le long du mur, là, t'as un courant qui te jette juste au pied de la
Béja. Le gros remonte-pente.
Voilà, et donc j'ai réussi à passer la barre sans aucun problème, avec ma 9,2. Et il y a une série qui est arrivée. J'ai ramé vers le fond pour pas la prendre sur la gueule. J'ai attendu la suivante, ça grossissait, ça pétait, tu sais, il y a un gros rocher au large, ça pétait sur ce rocher-là. Et là, il y a une série un peu plus grosse qui est arrivée, j'ai ramé pour aller au large, et en fait, j'ai pas eu le temps de ramer vraiment jusqu'au large. J'ai dit, bah tiens, bah, je vais la prendre. Et donc, j'ai ramé pour prendre la vague. Bien sûr, j'étais à la bourre. Et je me suis retrouvé vraiment sur la lèvre au moment où la vague a jeté. T'imagines 2,50 m à la Belsa, ça ouvre absolument pas, c'était un énorme closier. Et je me souviens que ma 9-2 s'est foutue à la verticale. Le nose touchait pas le pied de vague. Et moi, je suis tombé à la verticale comme ça.
Ah, il y a un peu de taille là. Ouais.
Voilà. Et je me suis retrouvé, en fait, dans le noir. C'est la première fois de ma vie, tu vois. Je me retrouvais dans le noir, tout au fond. Je savais pas où était le haut, pas où était le bas. Et au moment où j'ai voulu commencer à nager, et en fait, j'avais mon leash qui s'était entouré autour de mes chevilles et j'avais les pieds coincés dans le leash, les pieds joints, comme ça. Et j'ai cru que...
La petite Fredo, ouais, la petite,
ouais,
sirène, quoi.
Ah ouais, j'ai cru que j'y arriverais jamais, tu vois. Et à un moment, je pense que la planche est remontée, donc j'ai senti ça attirer. Donc avec les bras, j'ai réussi à remonter. J'avais toujours les pieds coincés. J'ai pris la deuxième sur la tronche. J'ai réussi à décoincer les pieds. Là, je suis allé me foutre sur le bord et je pense que j'ai attendu un quart d'heure avant de savoir si j'étais encore vivant ou pas. Voilà. Et de ce jour-là, j'ai commencé à regarder la période de la houle avant de me foutre à l'eau.
T'étais tout seul à l'eau ?
Ah, y avait pas grand monde. Ouais. Je me souviens plus qui y avait, mais il y avait pas grand monde.
Ça va, t'aurais pu faire une sortie fracassante aussi à la Côte des Basques dans les rochers.
Ouais, mais écoute, là, ça a été.
Ok.
Pas mal. Allez, Romain. C'est ton tour.
Ouais, bah du coup, ça m'a laissé le temps d'y réfléchir. Moi, je pense que c'est une rencontre avec un mammifère marin. Et c'était en Californie. Alors, j'ai déjà eu le truc à Rincon d'avoir deux dauphins m'arriver droit dessus et me voir mourir. Et en fait, eux te voient, donc ils te passent chacun de leur côté. Et moi, j'étais blanc et il y avait un local qui se foutait de ma gueule à côté parce que eux voyaient ça tous les jours. Mais non, c'est une rencontre avec deux baleines et je surfais... une petite plage, un truc, j'étais tout seul dans l'eau avec pas mal de gens sur la plage pourtant, mais au nord de Los Angeles. Et ma copine à l'époque me fait coucou sur la plage, me fait des grands signes et je lui réponds, je fais ouais, coucou. Et en fait, à un moment donné, elle me fait signe du bras de regarder en fait sur ma gauche, donc au sud. Et en fait, t'avais deux énormes baleines qui remontaient la côte, mais qui étaient vraiment genre à peut-être 30 mètres du bord et à 50 mètres de moi en fait, et qui m'arrivaient droit dessus. Avec, tu vois, genre leur à recracher un petit peu de temps en temps. Et à ce moment-là, je le vois, je flippe. Il n'y a pas de vague, donc en fait, je ne peux pas prendre la première mousse pour rentrer au bord. Donc, je suis rentré comme un voilà, ultra flippé. J'ai réussi à avoir le bord parce qu'on n'était pas très, très loin finalement. Et j'ai eu le temps de les voir passer. Et on a eu des photos où je suis là avec ma planche et elle passe devant avec leur souffle et tout. Donc, en soi, pas énorme flip, mais parce que tout se termine bien. Mais que j'ai vraiment, pendant 30 secondes, je me suis dit, bordel, en fait, ça se trouve, elles vont arriver hyper vite, ou il y en a peut-être d'autres ou quoi, et c'est un truc, si j'avais pas regardé ma copine qui me faisait signe, je m'en serais peut-être rendu compte, genre à 3 mètres d'elle, quoi. Donc, c'est vraiment impressionnant. C'est la première fois que je voyais des baleines en vrai, et
ouais. Ouais, ça doit être quelque chose.
Ouais.
Moi, j'ai déjà vu très près, mais en bateau, déjà, j'étais dans une petite coque de noix, mais très, très près. Mais j'avais pas envie de sauter dans l'eau pour les voir de plus près, quoi.
Et ouais, tu sais absolument pas comment elles pourraient réagir. Et bah ouais, franchement, avec du recul, tu vois, j'ai plus que des vagues avec un peu trop de temps passé sous l'eau, c'était ça.
Ouais, je comprends. Les animaux, ça fait peur, ouais.
Les gros, comme ça fait
ouais.
Peur.
Ouais.
J'en ai eu un autre petit comme ça, vers Big Sur. J'ai surfé, et donc Big Sur, il y a plein de plages, il n'y a jamais personne à l'eau, et il y a plein de phoques. Donc tu te dis, s'il y a plein de phoques, il y a peut-être des requins.
C'est un peu réputé pour qu'il y en ait en plus. C'est l'eau est déjà plus froide.
Réputé
et tout,
requins et tout. On était en road trip avec mon épouse et on descendait.
Mon épouse.
Ouais, moi je dis, j'aime pas trop ma femme. Je trouve ça fait un peu trop possessif.
Ma meuf. Là,
bref, ouais, ma meuf. Ma go. Et on descendait et je voyais plein de vagues et à chaque fois il y avait personne à l'eau et je me dis, ouais, il y a personne, j'y vais pas, ça craint. Et en fait, je me fous à l'eau à un endroit où il y a trois gars dans l'eau. Et j'arrive dans l'eau et les mecs se barrent.
Le classique.
Et je me retrouve tout seul. J'ai surfé 10 minutes, je suis parti.
C'est le temps de te mettre une petite pression.
Ouais, le temps de prendre une vague, remonter, se dire ouais, machin, se mettre une petite parano et sortir de l'eau. Pas coup de pression, mais
ouais, petite... Ouais, si t'as le temps de te mettre ta petite montée tout seul.
Petite montée tout seul, même s'il se passait rien, ouais. Ils étaient plus là, tu vois. Ils étaient trois, j'avais une chance sur quatre.
Ils étaient plus là, j'avais une chance sur un, donc je sors. Les probas étaient pas bonnes.
C'était le dernier casse-dalle dans la vitrine.
Ouais, c'est ça, les probas n'étaient plus bonnes du tout, fallait que sortir.
Donc après le coup de pression, on enchaîne, vous savez tous, par le Grand Spirit, c'était la rubrique motivation qu'introduit Rémi à chaque fois. Là aussi, franchement, c'est une super idée parce que moi, j'ai vraiment des histoires qui m'ont marqué, des trucs qui m'habitent encore et qui me, en tout cas, auxquels je me réfère. Est-ce qu'il y en a une parmi toutes les anecdotes ou un parmi tous les conseils qui vous marque ou en tout cas fonctionne encore?
Alors moi, il y en a un, mais je pense qu'il va être, je vais te chourer ton idée, du coup.
Vas-y, on peut se la dire à deux, alors.
C'est celle d'Arthur Bourbon.
Bien sûr.
Le garder le fil tendu. Et c'est vrai que quand on arrive à un âge un peu plus avancé dans le surf, chaque session que tu fais pas, c'est un pas de plus vers raccrocher ta board dans le garage. Donc,
on se l'écoute un peu?
Ouais, on se l'écoute.
Allez.
Ah, quel conseil, si ce n'est, je sais pas, j'ai envie de dire, et je crois qu'il y avait, je sais plus quelle marque de skate, je sais plus si j'ai entendu ça, mais en gros, on n'arrête pas parce qu'on vieillit, mais on vieillit parce qu'on arrête, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là de plus tu restes dedans, plus tu continues à surfer, plus t'es motivé, plus tu gardes le coup et plus c'est cool, quoi, tu vois, parce que dès que tu lâches, et voilà, ça m'est arrivé des fois lors de blessures ou autre, où tu lâches un peu, ou juste parce que, bah, t'as pas le temps, j'en sais rien, et puis dès que tu lâches, c'est dur et tu perds en motivation, etc. Alors que tant que tu restes dedans, que t'es à fond, que t'es au taquet, ben, ça garde le truc. Et moi, je suis tout le temps motivé, je me rends compte qu'en fait cette motivation, ben, elle s'auto-alimente, tu vois, et du coup je surfe tout le temps, j'adore aller surfer, je fais du, tu vois, j'ai tous mes potes sont mis au foil, etc., au longboard, ils font tout, moi je reste assez, je surfe différentes planches, mais c'est vrai que j'adore surfer, même 50 cm me chie, j'adore y aller, tu vois, avec ma planche et surfer, et je trouve qu'il y a toujours un truc à pour progresser, il y a toujours une nouvelle glisse, une nouvelle sensation à avoir, et je trouve que faut pas lâcher, et faut garder le fil tendu et continuer à y aller tout le temps, même quand c'est pourri. Il y a que comme ça c'est en restant en canne et en continuant à surfer à fond qu'on surfe longtemps au final, quoi, et qu'on peut profiter de sa carrière de surfeur, que ça soit surfeur du dimanche ou surfeur expert ou surfeur quoi qu'il soit, vaut mieux y aller tout le temps à fond et continuer, faut pas lâcher.
Eh ben, il a raison. Voilà, faut garder le fil tendu, faut rester motivé, faut y aller quoi qu'il arrive, et c'est la seule le surf appelle le surf.
Et tu sais que j'avais raccourci un peu, mais fait un petit extrait pour Instagram à l'époque, et c'est un truc que j'ai déjà partagé 3 fois à des potes, toi, que je vois complètement dans le schéma de commencer à lâcher, j'y vais pas pour ci, j'y vais pas pour ça, ils ont la petite quarantaine et tout ça, et j'ai dit, tiens, écoute ça, et parce que moi, il y a un moment donné où j'étais clairement dans ce truc-là aussi, à commencer à faire un petit peu l'exigeant, et tout était dit, en fait, il le dit tellement bien, garder ce fil tendu, sinon ça peut aller très très vite. Donc ouais, moi aussi c'est clairement celui-ci.
Ouais, c'est
vrai, c'est vrai, c'est le meilleur. Ça rejoint un que j'aimais beaucoup, mais je sais plus qui l'a dit. Je sais pas si c'est Malvo, je me souviens plus en toute franchise. Mais c'est le fait de, t'arrives sur le parking, tu te changes et tu vas à l'eau.
Ouais, exactement.
Tu vas pas te checker 15 spots. Voilà, t'y vas et les conditions seront ce qu'elles sont. De toute façon, maintenant avec les prêves, tu sais à peu près à quoi ça va ressembler.
Ou même si c'est pourri, tu reviens au spot de départ où tu prends au moins 3 vagues et tu sors. Ouais. Mais plutôt que de rentrer chez toi, ouais. C'est vrai. Non, finalement, il y en a eu quelques bons.
Ouais,
il y en a aucun
bons.
De mauvais, quoi, qu'il arrive. Et puis surtout, à chaque fois, il parle à tous ceux qui nous les racontent.
Puis il y a quand même Michel Laronde, quoi.
Démerde-toi, quoi.
Démerde-toi.
Légende.
Et toi, ton Grand Spirit? Bah,
justement, non, j'ai pas de Grand Spirit qui me vient comme ça. Je te dis, j'ai eu des coups de mou, mais finalement tu te fais violence et tu y retournes et ça repart. Tu sais qu'en tout cas t'es pas dans la bonne direction si tu commences à faire le difficile. Mais non, mais tu sais, toi t'es de Charente, moi je suis de Vendée, je me suis vite rendu compte, et toi t'es de Méditerranée, Fredo. J'ai pas commencé en Med, mais je sais que je suis beaucoup moins exigeant quand même que les gens d'ici en termes de conditions, et que moi j'habite au-dessus de la grande plage quand je suis arrivé ici au tout début. Ça m'est arrivé de faire des sessions où on était 2 ou 3 dans l'eau, et je pensais que les 2 autres ils devaient être soit Charentais, soit Vendéens, soit Bretons, parce que c'était pourri, mais que dans le pourri en fait c'était toujours mieux, ou en tout cas à la hauteur de ce qu'il y avait chez nous. et que je sais que là-dessus, ma motivation, c'est que j'ai pas besoin que ce soit bien et que même quand c'est pourri, j'y vais. Voilà.
Il y a toujours un truc à en retirer.
Exactement. Mais il y a plein de conditions comme ça où les gens d'ici, c'est pas vrai, je fais pas de généralité, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de monde dès que c'est un peu moins bien, alors que tu vois, tu peux évidemment toujours sortir une vague et qui va te faire ta session.
Et toi, Fredo?
Pas mieux que ce que j'ai dit. Vraiment, le fait de pas être trop exigeant sur la qualité des vagues, mais tu vas pour surfer, tu surfes. Voilà.
Alors moi, vu que je suis vraiment un crevard du surf, j'en ai plein. Donc vous en voulez un ou vous en voulez plusieurs?
Si tous sont bons, vas-y.
Alors j'en avais dit un, je crois que c'était dans l'épisode 2 ou 3. C'est déjà d'avoir une board pour les vagues de merde. Une board où tu sais que tu vas t'amuser quand c'est pourri, ça c'est important. Et donc soit un fiche, soit une board plus épaisse, soit un longboard, enfin tout dépend de ce que t'aimes, mais vraiment avoir une board, un outil adapté pour surfer de la merde. Ça c'est pas mal. Moi je me suis fixé une règle. Ça rejoint un peu ce que Fredo a dit, c'est que je check jamais plus de 2 spots. Je vais checker un spot. Si je vais pas aller au premier spot, c'est que je me suis un peu merdé. Et je vais checker un deuxième spot et quoi qu'il en soit, je vais à l'un des deux. Mais je vais pas trop cruiser pour chercher mieux. Parce qu'au final, je pense que ça, tous les surfeurs ont déjà overchecké et au final tu finis par pas surfer, t'as bu 60 litres de café, tu rentres chez toi, t'es frustré. Donc ça c'est pas bon. Donc vaut mieux surfer un spot moins bien et y aller. Et le dernier conseil, notamment pour l'hiver, c'est essayer tant que possible d'avoir une combi sèche.
Ouais.
Donc bien faire sécher sa combi et tout quand il fait froid. Si t'as ta combi mouillée à enfiler, tu prends un sacré coup à la motivation et là ça peut. Tandis que si ta combi est sèche, c'est facile à enfiler, tu vas vite et là tu vas dans l'eau. Mais ouais, combi mouillée l'hiver, c'est quand même dur. D'ailleurs, du coup, moi j'ai 2 combis. Comme ça, j'ai pas de combi mouillée. Mais après, il y a d'autres techniques, hein, bien la rincer, la faire sécher ou quoi que ce soit. Mais ouais, ça c'est. C'est vraiment les 3 trucs de base pour moi pour surfer beaucoup.
Ok. Ben, merci. Super intéressant. Ouais. Si vous avez d'autres conseils qui n'ont pas encore été racontés, n'hésitez pas. D'ailleurs, on a l'Instagram qui est là pour ça ou autre, mais des conseils qui sont peut-être aussi tout aussi basiques que ne pas checker plus de 3 spots ou ne pas repartir sans avoir 2 spots.
Ou ne 3, pas... c'est déjà trop. Hein.
Ouais. Non, en fait, j'ai fait 3, un mix entre le fait de surfer 3 vagues minimum et avant de ressortir. Tu vois. Mais... si t'habites à Anglet, tes 3 spots, tu les vois en fait, depuis ta place de parking.
C'est vrai.
Donc bon, on peut aller jusqu'à 3.
Ouais. C'est vrai, mais 3 vagues, c'est bien aussi.
Ouais, c'est vrai. Et dédicace à Buck de Stab, qui était chez Quick avant, et c'est lui qui avait cette motivation qu'il allait surfer par tout temps.
Ah vraiment... bah lui, c'est un bon chien de la casse. Hein,
ah bah mais lui, c'est le chief of Grum Spirit. Ouais. Et c'était lui qui disait ça, en fait, même quand il allait que c'était pourri, la mer était blanche, tempête, vent, machin, il se mettait quand même à l'eau, même à la grande plage. Hein, tu vois, tu mettais les webcams en grosse tempête à la grande plage, tu voyais un type à l'eau au bord, c'était lui, et qui prenait ses 3 vagues, il pouvait les prendre en 5, 15, 30 minutes, et c'était son objectif. Et c'est chambé, en fait, comme truc.
Après, il y a certaines sessions où prendre 3 vagues, c'est compliqué.
Ben oui, mais quand c'était fat, il les prenait pas au bord, tu vois, pas au fond. C'est un excellent surfeur, ça aide, mais il allait quand même pas au fond. Et mais au bord, il prenait les petites reformes et job is done, quoi.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai rencontré une fois dans l'eau à Avalanche. C'était un peu gros. Il était il avait une mini board pour Avalanche, genre une 7.5 ou un truc comme ça. C'est vraiment petit pour surfer là-bas. Et il était en mode, je me mets 3 vagues avant de déménager pour aller au Portugal.
Ah ouais.
Genre en fait, il avait quand même, il y avait sa femme qui était partie. Il était en train de se prendre un gros carton rouge là sur ce qu'il est. Il était en train de se faire. Il était en train de se mettre méga dans le mal. Il était parti à Avalanche, il prend 3 vagues à Avalanche avec une mini board, c'est hyper compliqué. Et je pense qu'il a pris un petit carton jaune ou orangé par sa femme derrière.
On arrive doucement vers la fin de l'émission après tout ça. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Est-ce qu'on a oublié de parler de choses? On avait un peu préparé quand même les grandes thématiques de cette émission. C'est un peu bizarre en fait de parler de nous-mêmes et de nous écouter tous les 3, mais en réalité c'est cool aussi.
Non, je sais pas. J'espère que ce format plaira aux auditeurs. C'est pas gagné non plus. Hein. On n'est pas des grands surfeurs. On n'a pas non plus le vécu d'un Michel Laronde ou les rollers d'un Jérémy Flores. Donc j'espère que ça plaira quand même. Et si ça plaît, c'est peut-être que notre conception de tous les surfeurs ont quelque chose à raconter est valable. Donc ça peut ouvrir vers d'autres pistes.
Ouais, mais déjà d'une, et puis moi je suis quand même content d'ouvrir un petit peu le... C'est vrai qu'on se met pas plus que ça en avant sur les épisodes, et on recherche pas non plus la lumière par rapport à ça, mais il y a quand même, quand on a l'occasion de rencontrer des auditeurs, des gens qui posent un peu des questions sur comment se passent un petit peu les coulisses. Donc voilà, vous le savez dès le début de l'émission, si vous êtes encore là à la fin, c'est que ça vous intéresse un minimum, donc on est content. On l'a dit, on fait ça depuis 6 ans, on en tire pas beaucoup d'argent, par contre on prend toujours autant de plaisir à le faire. Moi j'aime bien expliquer, en fait, faire la comparaison avec un groupe de rock et se dire c'est un peu comme notre groupe, on enregistre nos morceaux dans le sous-sol sous la maison, et quand ils sont prêts on les balance sur le MySpace actuel, sur les plateformes de streaming, et c'est cool, et c'est encore plus cool de voir que ça plaît, qu'on a des bons retours et des audiences qui progressent tout le temps. Donc voilà, pour le moment, longue vie à Impact Zone déjà. On kiffe vraiment tout ce qu'on fait, on kiffe avoir vos retours, donc n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires sur cet épisode, mais surtout sur tous les autres. C'est intéressant aussi de savoir ce qui vous plaît. On a fait un Shaper il y a pas longtemps, Ben de Chienville, et l'épisode il cartonne parce que justement les gens nous disaient qu'ils voulaient écouter un peu plus de Shaper. Si vous avez des noms précis d'invités ou des thématiques, des familles de gens que vous voudriez écouter un peu plus, n'hésitez pas, on n'est pas fermé. On a 12 émissions par an, mais c'est un début. Moi, j'espère bien qu'on va réussir à en faire un peu plus. Et vous aussi, les gars.
Ouais, bah, ça serait cool de pouvoir en faire plus.
Hein, et il y a largement de gens, assez de personnages déjà connus. Et même après, parmi des surfeurs, comme on disait, lambda, qui ont des histoires de fous à raconter. Donc, on n'est pas prêt de s'arrêter tant que...
Ouais, et puis déjà même, il y en a plein qu'on veut faire et qu'on n'a pas fait. Si ce n'est par l'éloignement géographique, il y en a plein qu'on veut faire et qu'on n'a pas fait, tu vois.
On parle même déjà de gens qu'on veut refaire comme ouais. Justine, alors, tu vois.
Ouais, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Et puis d'ici là, il y aura des nouveaux, tu vois, des nouvelles générations. Il y en a qui cartonnent. On voit qu'Oliva s'était qualifié au JO. Et j'espère qu'il aura des belles choses à nous raconter au mois d'août. Voilà, il y a pas mal de bons surfeurs qui arrivent, et puis comme le dit Peyo, on n'est pas que le surf français, on est le surf francophone, donc évidemment des gens des Marocains, des Belges, des Canadiens, pourquoi pas,
hein. Ah tiens, et d'ailleurs, alors t'as entièrement raison de dire ça, et c'est vrai qu'on remercie aussi, on voit dans les statistiques qu'il y a des gens qui nous écoutent de partout sur la planète, et donc forcément les gens qui sont dans tous les pays francophones, grosse dédicace à eux. On aimerait faire plein de choses avec Impact Zone, mais s'il y a quelque chose qu'on aimerait bien mettre en place, c'est justement de pouvoir faire des émissions un peu loin, sortir un petit peu de notre petit confort là entre Osgore et Anglette. Alors, si on pouvait aller rencontrer, on le disait tout à l'heure, les surfeurs dans les îles, ce serait génial d'aller aussi interviewer des surfeurs marocains directement chez eux, ce serait super. Mais il y a aussi, rien qu'en local, en fait, on adorerait faire des tournées en région. On a parlé de la Bretagne, et je sais qu'il y a des Bretons qui nous attendent aussi, et ce serait vraiment chambé. On a reçu Yann Fontaine, on a vu quand même de quoi les types sont faits, et que micro, ça peut être vraiment, vraiment génial. Donc, on adorait faire ça. Il y a la Vendée, il y a aussi en Méditerranée, évidemment, plein, plein de gens à aller chercher. Donc, si on y arrive, monter des petites tournées comme ça pour faire ce coup-ci des émissions idéalement en public avec du public, ce serait canon. On y travaille sans doute pas assez, mais ce serait cool qu'on arrive à faire ça. Moi je verrais plus ça l'hiver presque, en plus que l'été, aller vraiment rencontrer un peu la scène surfcore, voilà. Donc
là, faut avoir une combi très sèche.
Ouais on s'en sortira. Mais ouais, stay tuned, comme on dit, pour ça, de sortir un petit peu, d'aller à la rencontre des auditeurs, pour pouvoir intercaler les fameuses émissions, voilà, dans les mois qui viennent. Bref, on vous tiendra évidemment au courant de tout ça, notamment sur notre compte Instagram, où on l'a pas dit, mais on met ici en avant quand même des archives à la fois des invités, mais aussi nos archives perso de photos ou vidéos ou quoi. Donc c'est un bon prolongement parfois des épisodes, et c'est aussi une manière de faire vivre toute cette culture surf que nous on met en avant depuis tout ce temps. On arrive à la fin de l'émission, justement. On voulait évidemment remercier tous les auditeurs pour leur présence, leur soutien. On a dit, les audiences montent, et ça c'est très cool. On remercie aussi les annonceurs qui nous ont quand même suivis depuis le début. Il y a eu Billabong, il y a eu Rip Curl, il y a eu Dakine sur les émissions spéciales. Ça, c'est hyper important. C'est grâce à eux quand même que ce genre de projet ont vu le jour. Les émissions, vous le savez, les 50 et quelques, elles sont disponibles sur Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et Sorcession.com qui nous soutiennent aussi, eux, depuis le début.
Pour ce qui est Natureo aussi.
Ouais, Natureo, t'as raison. Natureo, c'est Nios, ouais, qui nous a permis d'organiser notre première émission live avec avec Maud en septembre dernier. Évidemment, ouais, bien vu. Et donc on parlait de soutien, on a aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, cette page Tipeee qui est une page de soutien, enfin une page collaborative dans la, sur laquelle vous pouvez participer sous forme de dons justement aux frais de l'émission. Il n'y a pas de minimum et c'est vraiment des petits soutiens qui nous aident. On a parlé du merchandising, on est en train de faire produire justement une petite série de produits, de t-shirts qui vont être et de casquettes qui vont arriver assez vite. Donc là aussi, c'est sur Instagram que ça va se passer. Et voilà, tout est dit. On vous retrouve maintenant d'ici quelques semaines, un mois précisément, avec autour de la table un ou une, sait-on jamais, invité. Et d'ici là, n'oubliez pas...
Allez surfer. Youhou.